Restons debout et courbons la tête. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants ce matin pour le privilège que nous avons de venir dans ta présence, dans ta maison, où ton peuple est réuni en ton nom, et tout appartient, Seigneur. Et nous nous en remettons à toi, et dans nos cœurs, nous sommes dans l'attente d'un service pour ceux qui sont sans Dieu et sans Christ, afin qu'ils soient sauvés, et que les malades soient guéris, et que les saints soient bénis. Accorde le Seigneur. Et à la fin, nous courberons la tête avec humilité, et nous te louerons pour tout ce que tu fais à travers nous aujourd'hui. Car c'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis vraiment reconnaissant du privilège d'être ici encore aujourd'hui. Et pour vous, les gens qui ont voyagé de si loin pour venir écouter le message, pour assister au service de ce matin. Je sais que vous n'êtes pas venu juste pour me voir ou m'entendre, mais que vous êtes venu pour rencontrer le Seigneur Jésus. Et donc, j'ai confiance qu'il vous accordera le désir de votre cœur. Maintenant, je suis de retour, j'ai emmené la famille à Tucson, puis je suis revenu. Je suis fatigué et épuisé. J'ai été actif tout l'été, depuis janvier dernier. Et là, je suis revenu pour aller dans le Kentucky cette semaine, pour aller à la chasse avec des amis et essayer de me détendre un peu. Ça me rend tellement nerveux, vous savez. Alors, Billy et moi sommes complètement épuisés. Alors nous prions que Dieu nous aide à nous détendre cette semaine. Si le Seigneur le veut, je veux revenir ici dimanche prochain, si le Seigneur le veut. Et je veux avoir une réunion spéciale dimanche prochain. Eh bien, je voudrais faire quelque chose d'un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Maintenant, je vous l'annonce pour que les gens qui ne seraient pas intéressés n'aient pas à venir. Mais nous prions toujours pour les malades, si le Seigneur le veut, quand les gens viennent. Et dimanche prochain, j'aimerais savoir les choses que vous avez dans votre cœur. Je voudrais que vous les écriviez aujourd'hui et que vous déposiez ça sur le bureau quand vous partirez. Frère Neville les donnera à Billy Paul et lui me les donnera. Ce que vous avez dans votre cœur. Disons que si c'est une question sur la Bible, d'habitude, c'est ce que je reçois. Mais là, j'aimerais élargir ce à quoi les questions ont trait. Peut-être qu'il y a un problème sur votre cœur que vous n'arrivez pas à résoudre. Par exemple, vous avez... Oh, peut-être un problème dans votre ménage. Vous n'avez pas à signer votre nom, mais simplement, mon mari fait telle et telle chose, et cela me nuit. Ma femme fait telle et telle chose. Et il y a une certaine chose qui arrive dans ma vie, ou quelque chose, vous savez. Écrivez simplement ce qu'il y a dans votre cœur, quelque chose qui vous trouble. Je pense que ce serait bon, n'est-ce pas? Puis, il se pourrait qu'en répondant à votre question, je réponde à celle de quelqu'un d'autre. Voyez, ils ont peut-être le même problème. Écrivez simplement ce que vous avez sur votre cœur. Soyez aussi bref que possible. Par exemple, j'ai un enfant qui semble prendre la mauvaise voie. Que dois-je faire? Mon mari ne veut pas venir à l'église avec moi. Il devient arrogant avec moi. Que dois-je faire? Ou une épouse qui agit de la même manière. Ou, vous savez, la Bible dit telle chose à un endroit et telle autre chose à un autre endroit. Et je ne comprends pas. J'aimerais savoir ce que cela signifie. Que devrais-je faire en tant que chrétien que je travaille au bureau et que le patron dit telle ou telle chose et qu'il me demande de l'accompagner à une fête et qu'à cette fête, il boive? Que devrais-je faire? Vous savez, les choses qui occupent la pensée des humains, nous voulons que vous les écriviez. Et donc, je dois retourner après ça en Arizona. Et j'ai pensé que j'aurais l'occasion de vous aider un peu à comprendre. Et je le ferai de mon mieux. J'aimerais en avoir le plus possible sur la chair aujourd'hui, avant que vous ne partiez. Écrivez vos questions et déposez ça ici. Et Frère Neville ou l'un d'eux me les remettra. Et cette semaine, dans la montagne, j'aurai la chance d'étudier ça et de prier à ce sujet, afin d'obtenir une réponse conforme aux Écritures pour vous, à tout ce que je pourrai pour vous aider. Car c'est pour ça que nous sommes réunis ici, pour s'aider les uns les autres, voyez? Vous m'aidez en priant pour moi et j'espère pouvoir vous aider. Bon, alors n'oubliez pas, ce sera dimanche matin prochain. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes... Il y a des visiteurs parmi nous, comme d'habitude. Et combien viennent de plus de 160 kilomètres? Levez la main. C'est 99% de l'Assemblée. Il y a quelques dimanches, j'ai dit, combien de personnes viennent de telle distance, ou quelque chose du genre, et je ne voyais aucune main de Jeffersonville. Ah, le lendemain, cependant, j'ai compris. Ils ont dit, « Frère Branham, tous les visiteurs sont venus », ont-ils dit. Alors, nous leur avons laissé nos places dans l'église. Ils ont dit qu'ils étaient venus, des centaines sont venus, mais ils ne pouvaient pas entrer. Ils ont dit, « Parce que nous avons vu les visiteurs, voyez ?» Or, c'est gentil de la part des gens de la région, ici, de Jeffersonville. Nous sommes reconnaissants de cela, Jeffersonville et New Albany, et les gens des environs. Nous sommes reconnaissants de cela. Combien viennent de 1600 kilomètres? Oh, combien viennent de plus de 1600 kilomètres? Levez la main. Oh là là, c'est bien. C'est dimanche dernier, il y a une semaine, j'ai parlé sur le sujet la demeure future de l'épouse et de l'époux. Et je pense que nous venions d'un rayon de 2400 kilomètres. Et il se trouve que c'est exactement la mesure de la ville dont je parlais, soit 2400 kilomètres de côté. Depuis, je festoie là-dessus, sachant que lorsque cette vie sera terminée, j'irai dans cette ville. Je me dirige vers cette ville, et le reste n'a aucune importance. Et si le soleil ne brille pas aujourd'hui, ou si demain n'arrive jamais, quelle différence cela fait-il? Nous avons une demeure, un lieu de repos. Fatigués ou pas, nous avons toujours ce lieu de repos. Vous dites, c'est le rêve d'un vieil homme. Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. C'est la vérité de la Bible. Un soir, après avoir parlé ici, il y a un homme qui s'est précipité derrière l'estrade ici, alors que je venais de passer la porte et qu'on tentait de m'emmener à la voiture. Et ce jeune homme a dit, « J'aimerais vous dire un mot. » Billy et quelques frères essayaient de m'emmener à la voiture. Il a dit, « Puis-je vous dire un mot ?» J'ai dit, « Allez-y, monsieur. » Et il a dit, « Vous parliez ce soir, vous réprimandiez ces femmes, la façon dont elles s'habillent et qu'elles portent ces vêtements. » Il a dit, « Un homme de votre âge penserait comme ça, mais si vous aviez mon âge, vous penseriez différemment. » J'ai dit, « Quel âge avez-vous ? » Il a dit, « J'ai 27 ans. » Et j'ai dit, « Quand j'avais 10 ou 15 ans de moins que vous, je prêchais la même chose. » Voyez ? J'ai dit, « C'est ce qui est dans ton cœur, mon garçon. Tes yeux voient par ton cœur. » Et il a simplement baissé la tête et il est parti. Je suppose qu'il n'y a rien à répondre à ça, voyez. Tout dépend de ce qui se trouve à l'intérieur, ici. C'est ce qui va sortir d'ici et d'ici. Voyez, Jésus a dit, si vous dites quelque chose de différent de ce qui se trouve à l'intérieur, ici, alors vous devenez un hypocrite. Je suis heureux ce matin d'avoir, quelque part dans l'Assemblée, un de mes amis très précieux, le frère Révérend Eddie Biscal, avec sa femme et ses enfants. Je pense qu'ils sont entrés dans la réunion ce matin. Eddie, es-tu ici? Je pensais que tu... Eh bien, peut-être qu'il n'a pas pu venir. Frère, oh, oui, là. Bon, ce n'est pas le coin des Amen, Eddie. Tu es le bienvenu sur l'estrade avec nous, les ministres, si tu veux venir. Et puis, nous avons été sur... Frère Eddie était avec moi. Que le Seigneur m'a donné la vision au sujet de l'ours et du caribou. Combien se souviennent que je vous en ai parlé? Très bien, il était là. C'était le jeune homme qui portait une chemise à carreaux, frère Eddie Biscal. Et il était là où, et a demandé, je leur ai demandé si l'un d'eux avait une chemise à carreaux. Non, personne n'en avait. J'ai dit, eh bien, il se pourrait, il faut que ce soit une chemise à carreaux. Il y aura un gros grizzly argenté et une sorte d'animal qui a des bois de 105 cm de long, comme ceci, et qui ressemble à un cerf. Et j'ai dit ça ici, vous savez, environ 6 mois avant que ça arrive, à peu près à cette période-ci, ou plutôt que cette période-ci de l'année. Alors, j'ai été invité là-bas, chez cet homme, pour aller à la chasse. Je n'étais jamais allé dans ce coin de pays, là où nous sommes allés. Et je l'ai dit, mais le petit sentier qui se trouve très loin, près de la route de l'Alaska, où il n'y a rien d'autre que des forêts, des montagnes et des animaux. Et ce soir-là, à la roulotte, quand je racontais ça à frère Biscal, là derrière, et à frère Southwick, il a dit, « Eh bien, nous montons dans une région de moutons », a-t-il dit, « ce ne sera pas là-bas ». Et j'ai dit, « Oui ». Et j'ai dit, c'était l'un des jeunes qui était avec moi qui portait une chemise à carreaux. Personne n'avait de chemise à carreaux. Frère Biscal n'en avait pas, et aucun de nous n'en avait une. Le deuxième soir, nous avions vu repérer un bélier au-delà de la limite forestière. Eh bien, c'est tout là-bas, où les arbres ne poussent même pas, où il n'y a que des caribous et des moutons, et nous en avions repéré quelques-uns au loin. Et en descendant le sentier, cet après-midi-là, frère Biscal avait trébuché dans l'eau et s'était mouillé. Le lendemain matin, nous nous sommes levés de bonne heure, et nous sommes partis à la recherche des béliers que nous pensions attraper. Et sur son, nous sommes allés là-bas, et nous avions mangé notre dîner, et nous n'arrivions pas à trouver les béliers. Et frère Biscal venait de tirer un caribou. Alors, j'ai regardé autour, puis nous sommes montés là-bas. Et frère Southwick m'a dit, il a dit, « Je crois que nous allons, si vous êtes prêt à marcher d'un bon pas, frère Branham, nous allons traverser cette montagne. Ces béliers sont peut-être descendus là, dans ce vallon, et c'est une longue marche. » Mais il ne fait pas nuit avant très tard, parfois 22 ou 23 heures. Et c'est une très bonne randonnée dans ces montagnes rocheuses. J'aime bien marcher. Et nous étions là, debout, les bras l'un autour de l'autre, tous deux la barbe grisonnante, nos bras l'un autour de l'autre, pleurant et sachant. J'ai dit, frère Bad, j'espère qu'un jour, dans le millénium, je pourrai marcher partout dans ces montagnes-là. Il a dit, « J'espère que je serai avec vous, frère Branham. » Et nous nous tenions là, en train de nous réjouir dans le Seigneur. J'aime tellement les montagnes. Puis nous sommes descendus. C'est à ce moment-là que frère Biscal a tiré le caribou. C'est un missionnaire qui travaille parmi les Indiens, et il voulait le donner à manger à ces Indiens. Alors nous sommes descendus, nous avons pris notre dîner, puis nous avons vidé le caribou de ses entrailles, et nous sommes revenus. Bad et moi, en traversant la montagne, nous avons regardé au loin, et grâce à mes jumelles, j'ai repéré cet animal que j'avais vu dans le panorama, comme je vous l'avais dit ici. Frère Biscal, là, à côté de nous. Et alors j'ai dit, voilà cet animal. Et il a pris les jumelles, il a dit, c'est un très gros, un énorme caribou mâle. Et j'ai dit, je n'en avais jamais vu, je pensais qu'ils avaient une ramure. Mais celui-ci avait des pointes. C'était un animal d'allure étrange, exactement comme je l'avais vu dans la vision. Je n'avais jamais tué de caribou auparavant. Eh bien, a-t-il dit, si le Seigneur vous le donne, dit-il, ce serait... J'ai dit, oui, c'est sûrement cela. La seule chose que je me demande, c'est cette chemise à carreaux. Et j'ai regardé autour de moi, et frère Eddie, sa femme avait dû la mettre là. Elle est ici avec lui. Elle avait dû mettre la chemise dans son sac. Quand il s'était mouillé la veille, il avait changé de chemise. Et voilà, il portait la chemise à carreaux. J'ai dit, ça y est, j'ai tiré le caribou. Et quand je suis allé le chercher, Bad m'a dit, il a dit, bon, frère Branham, vous dites que ces bois mesurent 105 cm? J'ai dit, c'est ce qu'ils mesureront. Il a dit, j'ai l'impression qu'ils mesurent 235. J'ai dit, non, ils mesurent 105 cm. Il a dit, « Maintenant, selon ce que vous m'avez dit, avant que nous arrivions à ce garçon, là, en bas, qui porte la chemise à carreaux, et dit, là où il devait nous rencontrer, au pied de la montagne, à environ 2 km, a-t-il dit, « Vous allez tuer un grizzly. » J'ai dit, « C'est ainsi dit le Seigneur. » Il a dit, « Frère Branham, d'où viendra-t-il? Je peux voir à 80 km à la ronde. » J'ai dit, « Il est toujours Jéhovah Jireh. Le Seigneur peut pourvoir pour lui-même, vois-tu? Il peut créer des écureuils. S'il peut créer un bélier, et s'il prononce la même chose au sujet d'un ours, alors un ours peut être créé. Nous essayons de transporter ce lourd caribou, ce trophée, en bas de la montagne. Et de temps en temps, je portais la carabine, ensuite c'était lui qui la portait, et vice-versa. Et alors que nous étions presque arrivés à un grand glacier, eh bien, nous sommes arrivés là. Il faisait un peu chaud. Nous sommes entrés dans ce glacier, et nous nous sommes assis là un moment pour nous rafraîchir. Il a dit, « Vous savez, frère Branham, nous ne sommes pas à 1,5 km d'Eddie et Blaine, là où ces deux garçons se trouvent. Ce vieil ours ferait mieux d'apparaître. » J'ai dit, « Bud, je crois que tu doutes de cela. » Il a dit, « Frère Branham, mon frère a eu des crises d'épilepsie un bon nombre d'années. Et une fois, vous m'avez dit, la première fois que vous étiez ici, dans un autre endroit où nous étions allés, vous m'avez dit à quoi ce garçon ressemblait. Et Eddie était là, à côté de moi, à cheval, quand le Seigneur a donné la vision. Il leur avait dit, quoi faire avec le garçon? Les crises ont cessé. Alors il a dit, je ne peux pas en douter. J'ai dit, Bud, je ne sais pas d'où va venir l'ours. Mais je devais avoir environ 50 ans. Maintenant, j'ai 55 ans. Alors cela est arrivé il y a environ 3 ans. J'avais environ 52 ou 53 ans. J'ai dit, je n'ai jamais vu cela faillir. Dieu va me donner cet ours grizzly avant que j'arrive là où sont les garçons. Et nous étions presque descendus à l'endroit où les petites épinettes et les arbres poussent. Nous étions un peu plus bas sur la montagne, presque rendus là où les arbres poussent. Il s'est assis. C'était lui qui transportait le trophée à ce moment-là. J'avais la carabine. Et il a dit, « Ce vieil ours ferait mieux d'apparaître, n'est-ce pas ?» J'ai dit, « Il sera là, ne t'inquiète pas. » Il a dit, « Je peux voir chaque colline. » J'ai dit, « Mais je vois la promesse. » Voyez, il a promis. J'ai dit, « Quoi qu'il... » J'ai dit, « Bud, qu'est-ce qu'il y a là ?» Il a regardé et a dit, « C'est un gros grizzly argenté. » J'ai dit, « C'est lui. » Une fois que nous avons eu le grizzly et que nous sommes revenus, je me suis souvenu dans la vision que je vous ai racontée. J'étais inquiet à cause de la carabine. C'était un tout petit modèle 270, des petites balles, voyez-vous, c'est sur bande. Et j'ai abattu l'ours à environ 500 mètres, comme dans la vision. Bud a dit, vous feriez mieux de tirer cet ours dans le dos. Il a dit, avez-vous déjà tiré un grizzly auparavant? J'ai dit, non. Il a dit, oh, ils ne savent pas ce qu'est la mort. Je l'ai appris un peu plus tard. Alors il a dit, il ne s'écroule pas à cause d'un impact, a-t-il dit. Vous feriez mieux de le tirer. J'ai dit, selon la vision, je l'ai tiré dans le cœur. Il a dit, « Eh bien, si cette vision l'a dit, je vais rester à côté de vous. » Puis j'ai dit, « Allons-y. » Et nous nous sommes rapprochés. Et quand je me suis levé, l'ours m'a vu. C'était ça qu'il voulait, pour charger. Et j'ai tiré l'ours. C'était comme si ça ne l'avait même pas affecté. Le voilà qui vient. Et avant que je puisse mettre une autre balle dans la carabine, l'ours est tombé mort à une cinquantaine de mètres de moi. Bud était blanc de peur. Il a dit, « Frère Branham, je ne le voulais pas sur mes genoux. » J'ai dit, « Moi non plus. » Il a dit, « Je suis heureux que la vision ait dit que tu la battais. » Il a dit, « Maintenant, si ces bois mesurent 105 cm, je vais avoir un... » Je vais le dire comme il l'a dit. Il a dit, « Je vais me mettre à hurler. » J'ai dit, « Eh bien, tu peux simplement t'y mettre tout de suite, parce que c'est ce qui va arriver. » Quand nous sommes arrivés où se trouvait Frère Eddie, j'ai dit à Frère Eddie, nous avons attaché les chevaux un peu plus loin, car ils ont peur des ours. Et oh, il l'aurait senti, c'est sûr. Nous ne pouvions pas le vider, il était trop tard. Il nous a fallu y retourner le lendemain. Et puis les cordes ont été brisées une dizaine de fois, et les chevaux couraient partout. Ainsi, quand nous sommes arrivés en bas, il a dit, il est allé chercher le maître à ruban dans sa sacoche de selle. Il a dit, Blaine, j'ai dit à Frère Eddie, j'ai dit, regarde cette petite main là. D'après, je pensais que ce serait peut-être Billy Paul, la petite main qui tenait le maître à ruban sur les bois. J'ai dit, regarde cette petite main. J'ai donné un petit coup à Frère Eddie. Nous avons reculé. Il a placé le maître à ruban comme ça, précisément 105 cm. Voyez, exactement. Jésus ne faillit jamais. Cette parole ne faillira jamais tant que ça vient de Dieu. Je viens de voir parmi nous frères et sœurs Jackson de l'Afrique du Sud. Je pense qu'on les a présentés. N'est-ce pas, frère Jackson? Ce matin, levez-vous, vous et sœur Jackson. J'aimerais qu'ils vous voient. Mon frère Eddie, ici, se trouve aussi un ancien partenaire de chasse de l'Afrique du Sud, de très loin. Frère Jackson et sœur Jackson, que le Seigneur vous bénisse. Je suis si heureux de vous avoir parmi nous. Et tous les ministres dans le bâtiment, levez la main. Tous ceux qui sont dans le ministère. Eh bien, c'est très bien ça. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux de vous avoir tous ici. Je vais avoir une ligne de prière dans quelques minutes. Alors j'aurais aimé que vous puissiez tous vous lever et venir prêcher pour moi. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous, chacun de vous. Quand je pense à votre loyauté et au fait que vous venez de partout dans le pays et tout pour venir m'écouter parler de cet aimable Seigneur Jésus, la confiance que vous avez qu'il entend mes prières. Il y a quelques instants, j'avais un entretien privé avec un membre de cette église, il n'y a pas plus de 45 minutes, une mère au cœur brisé. Et au moment où je commençais à dire quelque chose à la femme, je ne sais pas si elle veut que je dise qui elle est ou pas. La même lumière que vous voyez sur cette photo est venue. C'était réglé. Elle est repartie heureuse. Nous sommes tellement heureux aujourd'hui dans cet âge instable dans lequel nous vivons. L'on peut difficilement avoir confiance en quoi que ce soit. Nous avons un royaume stable et inébranlable, l'immuable. Pas le rocher de Gibraltar, mais notre foi peut se reposer strictement sur le rocher des âges, sur Jésus-Christ, le rocher immuable du salut. Je tiens à remercier la sœur qui a porté la petite boîte triangulaire contenant une Bible pour ma femme qui est ici. Elle avait fait une alliance avec le Seigneur à propos de cette petite boîte. Elle la chérissait. Elle a de... Il y a comme des photos d'autrefois dessus. Et elle a demandé au Seigneur, elle chérissait la boîte, peut-être un peu trop. Ce n'est qu'une petite boîte ordinaire en forme de pyramide. Et elle l'a donnée à ma femme avec une Bible. Merci, sœur. Chacun de vos petits cadeaux et ces choses que vous remettez à Billy Paul et aux autres, je les reçois. Je suis reconnaissant pour tout. Que Dieu soit avec vous. N'oubliez pas maintenant, dimanche matin prochain, dès que le service sera terminé aujourd'hui, écrivez votre question. Si vous ne le pouvez pas, apportez-la dimanche matin prochain. Je viendrai un peu plus tôt pour qu'on me les apporte dans la pièce et pour que je puisse avoir le temps d'y trouver une réponse conforme aux Écritures. Et nous répondrons aux questions dimanche matin si le Seigneur le veut. Maintenant, il y a beaucoup de mouchoirs posés ici, et je les pousse à côté juste pour pouvoir poser mes notes ici. Et mes notes plutôt, pour que je puisse avoir un peu de place. Mais je prie pour chacun d'eux. J'ai écrit mes notes, j'avais très peu de temps. Je ne vous garderai pas comme je l'ai fait la dernière fois que j'étais ici, pendant environ 4 heures. Je me suis promis que si je devais en enregistrer d'autres comme celui-là, je les enregistrerais alors que je serais seul ici, ou d'une manière ou d'une autre. Ainsi, je n'aurais pas à vous retenir si longtemps. Docteur Livell, est-il ici ce matin? Je voulais demander si... Docteur Livell, es-tu ici, frère Vail? Lève la main si tu es ici. Est-il à l'arrière? D'accord. Merci, frère Roy. Et je veux que tu t'assures de vérifier ces notes, frère Vail. Tu es quelque part dans la foule là-bas où je ne peux pas voir, ou dans le hall. Nous devons faire attention. Il ne faut pas que trop de gens se tiennent debout. Le commissaire aux incendies ne veut pas que nous fassions cela, voyez-vous. Ainsi nous sommes. Je veux que vous examiniez ma révélation sur la semence du serpent qui sera ajoutée au premier âge. L'âge de l'église d'Éphèse, qu'il est en train d'écrire, de corriger la grammaire pour moi. Un très beau travail. Je veux que vous examiniez ça, et là, que quelqu'un dise quelque chose contre la semence du serpent, si c'était vrai ou pas. Alors, le Seigneur vient de me la donner hier, voyez. Oh, c'est extraordinaire. Voilà comment je reçois un message. Je suis là, et quelque chose me frappe. Alors, et si je sais que c'est Dieu, je prends cela et je cherche dans les Écritures pour trouver cela. Ensuite, ça n'a jamais failli, mais de la Genèse à l'Apocalypse, c'est toujours vrai, peu importe ce que les gens pensent. Et c'est encore plus le cas que jamais depuis ces 7 sceaux. Voyez, c'est ce qui a amené ça, cette fois-là. Bon, que le Seigneur vous bénisse maintenant, pendant que nous étudions. Là, par respect pour la parole. Et je pense que quelqu'un, l'ingénieur, qui que ce soit qui s'en occupe, il y a un peu d'écho ici. Bon, pouvez-vous m'entendre comme il faut à l'arrière? Levez la main si vous le pouvez. Bien, maintenant, ouvrons la Bible à 2 endroits de l'Écriture, et je vais essayer d'apporter le message et de sortir à l'heure, si le Seigneur le veut. Et maintenant, prenons Marc au chapitre 5 et 1 roi au chapitre 10. Marc chapitre 5, 1 roi chapitre 10. Maintenant, pour les nouveaux venus qui pourraient se trouver parmi nous, ceci, nous faisons notre école du dimanche dans une seule grande classe. Et c'est cette classe-ci, parce que les salles sont toutes remplies de gens, et nous ne pouvons pas avoir les classes séparées habituelles. Et alors, nous étudions un peu la parole et passons un moment de communion fraternelle ensemble. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous n'avons pas de dénomination. Nous sommes simplement libres dans le Seigneur. Et ça ne signifie pas un tas de fanatisme. Nous n'enseignons que la Bible et elle seule. Et le Seigneur est si bon envers nous qu'il la confirme et montre que c'est vrai. Et cela nous donne un puissant encouragement. Et maintenant, vous êtes les bienvenus parmi nous à tout moment. Bon, je ne suis pas toujours ici, mais nous avons de bons pasteurs ici. Frère Neville, un de nos pasteurs. Frère Capps, un autre de nos pasteurs. Et frère Collins, Willard Collins, un autre de nos pasteurs. Et puis, nous en avons d'autres, de différents endroits, de nos petites églises associées. Si vous êtes des environs du Texas, les frères Martin sont ici. Et frère, qui est le frère qui vous accompagne quand vous venez ici? Je ne peux pas voir frère Blair ce matin. Oh, frère Blair, je ne vous avais pas vu. Frère Blair, frère Raddle, ici même, l'une des églises près de la route 62, l'une des églises sœurs ici. Frère Junior Jackson, assis ici, à côté de frère Blair. Je le vois maintenant, une autre de nos églises sœurs. Et nous avons des églises partout dans le pays. Frère Jack Palmer, en venant ici, je pense qu'il roulait un peu trop vite avec la nouvelle voiture de son garçon. Pour ainsi dire, vous savez, il dépassait un peu les limites de vitesse et ils ont eu un accident. Il s'est blessé à la mâchoire et il n'a pas pu venir. Il est rentré chez lui, mais là, il va bien. Et nous, frère Ben, ici, un autre de nos frères du Kentucky, ici. Il l'a appelé ce matin pour voir s'ils avaient besoin que l'Église leur donne de l'argent ou autre chose pour les aider. Il a dit que tout allait bien. Il a pris un virage à trop grande vitesse et a roulé sur du gravier et sa mâchoire était écrasée ou quelque chose comme ça. Et ils ont appelé de là-bas quand sa voiture a percuté un poteau ou quelque chose. Et ils ont appelé pour demander que l'on prie pour eux. Frère Billy Collins aussi, nous savons, était gravement blessé au pouce. J'ai entendu dire que l'os était cassé et ils ont dû le replacer. Alors, nous voulons nous souvenir de lui en prière. Et maintenant, la raison pour laquelle nous nous levons, lorsque nous promettons fidélité à la patrie, lorsque les drapeaux passent ou autre chose, nous nous tenons toujours au garde-à-vous ou nous faisons un salut. Ou au moins, nous nous levons par respect pour notre nation. C'est ce que nous devrions faire. Et pour notre drapeau. Alors, qu'en est-il de notre Seigneur lorsque nous lisons sa parole? Levons-nous maintenant pour lire dans Marc 5, en commençant par le verset 21. Soyez attentifs maintenant pendant que nous lisons. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive. Une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord, la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, pour qu'elle soit sauvée et vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis toucher seulement ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de ce mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Et comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques, Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante, et qui pleurait et poussait de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit, et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père, la mère et l'enfant, de l'enfant plutôt, et puis ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était couché l'enfant. Et il dit à la jeune fille, pardonnez-moi. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur donna de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Dans le livre de 1 roi, au chapitre 10, nous allons lire ces 3 versets.
« And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning... »
La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon. Elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions. Et il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer. Prions. Seigneur Jésus, alors que nous lisons ces histoires de la Bible, notre cœur bondit de joie, car nous savons que tu es Dieu et que tu ne changes jamais. Tu ne changes jamais de méthode, tu ne changes jamais ta manière de faire. Tu demeures Dieu pour toujours. Et nous te prions, ô Dieu, de nous donner l'interprétation ce matin de ces Écritures que tu veux nous faire connaître, afin que nos cœurs puissent être discernés, que le grand Saint-Esprit vienne parmi nous aujourd'hui et discerne nos pensées et nos cœurs, et qu'il ne reste plus rien. Que nos cœurs ne soient si pleins de joie quand nous partirons d'ici, que nous dirons comme ceux qui revenaient d'Emmaüs ce soir-là, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'ils nous parlaient en chemin? Tu demeures toujours Dieu et nous sommes tes enfants affamés réunis ce matin. Car il est écrit, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bénis-nous, notre rassemblement et tous ces gens, Seigneur, qui ont parcouru des centaines et, oui, des milliers de kilomètres. Nous prions qu'en rentrant chez eux, leur cœur soit rassasié des bonnes choses, de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Un petit texte très particulier, trois mots tirés de tout ce que nous avons lu, dont je veux me servir pour mon sujet. Vous pourriez dire, c'est très petit, trois mots de tout ce que vous avez lu, des passages tirés de deux chapitres de la Bible. Mais j'ai fait ça comme toile de fond pour prendre ces trois mots, prouvons sa parole. Vous savez, il y a un passage de la Bible, celui de 1 Thessaloniciens 5:21, où il est écrit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Quand quelque chose a été examiné, cette chose s'avérera être soit vraie, soit fausse. Et quand quelque chose est mis en question, il faut l'examiner jusqu'à ce qu'on ait découvert la vérité à ce sujet. Et quand on a découvert la vérité à ce sujet, alors la Bible dit, retenez ça. Autrement dit, agrippez-vous-y, ne le lâchez pas, retenez-le. Autrement dit, tenez-le fermement pour que ça ne vous glisse pas des mains. Retenez ce qui est bon après qu'il ait été prouvé que c'est vrai. Et quand il ait été prouvé que quelque chose n'est pas vrai, alors lâchez ça au plus vite, éloignez-vous-en. Ne vous cramponnez jamais à quelque chose qui est mauvais. Or, il est possible que des chrétiens fervents, de très bonnes personnes, puissent parfois s'attacher à quelque chose qui est faux, en pensant que c'est quelque chose qui est vrai. Mais on devrait examiner ces choses pour savoir si elles sont vraies ou fausses. C'est notre devoir à tous de le faire. Nous qui comptons aller au ciel quand Jésus viendra. Et il est du devoir du ministre, chaque fois qu'une question est soulevée, de résoudre cette question. Et ensuite, de démontrer devant les gens ce qu'il en est, afin qu'ils comprennent. En effet, puisque personne ne veut se retrouver dans l'erreur, attaché à quelque chose qui est faux. Nous avons donc un passage de l'Écriture, et Jésus a dit que toutes les Écritures doivent s'accomplir, qui nous dit d'examiner toutes choses. Ensuite, retenez, ou tenez fermement, agrippez-vous-y à la vie, à la mort. Et ne le lâchez pas, retenez ce qui est bon. Je me souviens, à l'école, j'ai appris quelque chose, et bon nombre de vous ont appris la même leçon. Quand on avait résolu un problème, qu'on avait trouvé la solution, on pouvait prendre la réponse et la démontrer par le problème. Combien ont déjà fait ça? Vous tous, bien sûr. Alors, on n'avait pas à s'inquiéter si la réponse était bonne ou pas. La réponse au problème avait été démontrée par le problème. Ainsi, vous saviez que vous aviez la bonne réponse. Si la validité de chaque réponse sur votre ardoise ou votre feuille a été démontrée, le problème a été démontré par la réponse a été démontrée par le problème, alors vous avez la bonne réponse. Personne ne peut dire que la réponse est mauvaise, vous avez forcément. Et si vous faites votre travail soigneusement et correctement et de la manière dont il doit être fait et que votre réponse a été démontrée, vous pouvez vous détendre et vous reposer avec l'assurance que vous allez obtenir la note A là-dessus, sur cette feuille de papier que vous avez remise, car cela a été démontré par le problème. Maintenant, il y a aussi un vieux proverbe qui dit « Prouvez-le et je le croirai ». Bon, il y a un de nos États, un des États de notre pays, où ils ont un slogan « Je viens du Missouri, montrez-le-moi ». Voyez-vous? Autrement dit, je veux des preuves. Je viens du Missouri. Mais ça, ce n'est pas toujours le cas, car Dieu, dans tous les âges, a accompli et a prouvé l'œuvre qu'il a établie pour cet âge-là, telle qu'il a déclaré dans sa parole. Et chaque fois que la parole de Dieu a été prouvée dans l'âge en question, la majorité des gens l'ont rejetée. Donc, prouvez-le et je le croirai, ce n'est pas ainsi. Vous ne pouvez avoir la foi que si Dieu vous donne la foi. La foi est un don de Dieu. Aussi religieux que vous soyez, il faut la... Vous devez avoir la foi. Et si vous êtes chrétien, votre foi ne peut reposer que sur la parole de Dieu prouvée. Maintenant, souvenez-vous, Dieu a assigné une portion de sa parole à chaque âge et a prédit ce qui allait arriver au cours de l'âge dont il parlait. Or, si Moïse était venu avec le message de Noé, ça n'aurait pas fonctionné. Si Jésus était venu avec le message de Moïse, ça n'aurait pas fonctionné. Ou qu'un prophète était venu avec le message d'un autre prophète, ça n'aurait pas fonctionné. Mais par ses prophètes, il a révélé la totalité de lui-même et de son plan. C'est pourquoi on ne peut pas ajouter un mot à la Bible ni en retrancher un mot. Donc, si vous démontrez votre problème par votre réponse par votre problème, alors pourquoi ne pas démontrer la réponse que nous obtenons maintenant par la parole de cet âge-ci? Si la Bible dit qu'une certaine chose doit arriver dans cet âge-ci, c'est dans la Bible, et ça va arriver. Alors, si la réponse que vous essayez de donner aux gens, si elle est démontrée par le livre, alors elle est vraie. Elle est vraie. Sinon, elle ne l'est pas. Maintenant, nous en avons un autre. Vous les avez sans doute entendus dire, « Voir, c'est croire ». C'est un autre vieux proverbe que nous avons, mais ça ne fonctionne pas non plus. Ça ne fonctionne pas, parce que l'homme peut se tenir là et regarder quelque chose directement devant lui sans le voir. Le mot « voir », le mot anglais « see » a tellement de significations différentes. « See » en français « mer » pourrait signifier une étendue d'eau. Et « see » en français « voir » pourrait signifier « comprendre ». « See » pourrait signifier « regarder ». Et oh, il y a toutes sortes de mots qu'on peut employer. Mais quand vous dites « voir, c'est croire. Vous avez tort. Quand vous le comprenez, vous le croyez. Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Autrement dit, comprendre le royaume, car le royaume est le Saint-Esprit en vous. Donc, vous devez comprendre ce qui se trouve en vous. Et la seule façon pour vous de le comprendre, c'est de comparer ce que cela vous fait faire avec ce que la Bible a dit que cela vous ferait faire. Alors, votre problème est résolu, voyez? Et alors, il est ce Saint-Esprit. Donc, voir n'est pas croire. Je peux le prouver par les sens du corps, voyez, que voir n'est pas croire. Je ne peux pas voir cette bouteille d'huile. Je ne pourrais pas la voir parce qu'elle est derrière moi. Mais j'ai le sens du toucher qui me dit que je l'ai dans ma main. Voyez? Maintenant, je ne pouvais pas la voir. C'est impossible. Mais maintenant, je ne peux pas l'atteindre. C'est impossible. Et pourtant, je crois qu'elle est là. Ceci, voir, c'est croire. Ceci, toucher, c'est croire. Maintenant, je ferme les yeux. Je ne peux ni la voir, ni la toucher. Mais si je peux m'en rapprocher et la sentir, je crois toujours qu'elle est là. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, pas qu'on voit, qu'on goûte, qu'on touche, qu'on sent ou qu'on entend. Vous y croyez, et la foi doit reposer sur un fondement. Et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, la foi en Dieu ne peut reposer sur aucun fondement, à moins qu'il ne s'agisse d'une promesse de Dieu. C'est là qu'elle trouve sa position éternelle. Mais malgré tous ces doux âges de doute et ces choses que nous avons traversées et où nous vivons aujourd'hui, le pire de tous, malgré tous ces doutes, Dieu continue de prouver que ses paroles sont vraies, comme il l'a fait dans chaque âge. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Ça ne lui nuit pas. Peu m'importe combien le monde est incrédule, cela arrivera quand même. L'incrédulité ne fait rien d'autre que condamner l'incroyant. L'incrédulité enverra l'incroyant en enfer. Elle va le dépouiller de toutes les bénédictions que Dieu lui a promises. Mais cela n'empêche pas Dieu de continuer à œuvrer avec le croyant. Voyez, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Elle n'arrête que l'incroyant. Vous dites, le soleil ne brillera pas demain. Je vais l'arrêter. Essayez donc. Voyez, très bien. Vous ne pouvez pas le faire. Dieu l'a mis à sa place et a dit qu'il brillerait. Et il brillera. C'est tout. Il a dit qu'il brillerait. Il y a peut-être des nuages en dessous, mais il brille quand même. Et vous ne pouvez pas arrêter Dieu par cela. Comment fait-il connaître sa parole aux gens? D'abord, Dieu sachant qu'il y aurait des incroyants. Maintenant, regardez bien la sagesse de Dieu. Il savait qu'il y aurait des incroyants et que la plupart des gens seraient des incroyants. Il, par prescience, a prédestiné une semence pour chaque âge qui y croirait. Or, vous remarquerez là que chaque âge avance selon sa parole. Tout arrive à l'heure. Rien ne nuit à Dieu. Il continue à avancer et chaque tic-tac avance parfaitement. Nous pensons parfois que quelque chose ira de travers. Mais ne vous inquiétez pas, son horloge est parfaitement à l'heure, à l'instant près, et tout se déroule parfaitement. Quand je regarde autour et que je vois ces Ricky et ces Riquetta que nous avons aujourd'hui et dans les rues et tout ce qui se passe, je pense, oh Dieu, attendez une minute, dit-il, voyez, le tic-tac de mon horloge fonctionne parfaitement. Je dois vous placer sur la même base que le premier homme en ces jours-là. Et je vous ai placé sur la même base que Luther et sur la même base que Wesley. Parce que, voyez-vous, le péché n'était pas connu alors comme il l'est maintenant. Et quand nous avons plus de connaissances que nous en avions alors, et quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu lève un étendard contre lui. Voyez? Et aujourd'hui, nous avons plus de connaissances, plus de compréhension. Donc, les fleuves d'incrédulité affluent. Mais Dieu lève un étendard contre cela. Mais souvenez-vous qu'il a toujours la raison pour laquelle il avait prédestiné que ces choses arriveraient. Il avait prédit par ses prophètes qu'elles arriveraient. Et quand les justes voient que ces choses sont confirmées, alors ils savent que c'est vrai. Peu importe ce que quiconque peut dire, ils savent que c'est vrai. Nous voyons dans, je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens, il a dit, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Dieu ne dit pas, toi, je vais te choisir, et toi, je ne te choisirai pas. Mais sa prescience savait ce que vous feriez. Donc, par prescience, il peut établir chaque chose à sa place, et il a tout fait concourir pour son bien et pour votre bien. Dans la Genèse, Dieu a dit à Adam et Ève ce qui allait arriver s'ils doutaient de sa parole. Là, il a placé le bien et le mal devant eux, et il a dit, « Le jour où vous en mangerez, ce jour-là, vous mourrez. » Et Dieu voulait dire exactement ce qu'il a dit. C'est toujours le cas, et ce qu'il dit veut dire exactement ce qu'il dit. Satan a amené Ève à ne pas la croire, car Satan lui-même ne l'a jamais cru. Il ne la croit pas, alors il a amené Ève à croire cela. Et il fait toujours la même chose, et enseigne la même chose à d'autres, et eux doutent de cela comme elle l'a fait. Dieu a fortifié son peuple derrière sa parole. C'est votre seule défense, pas votre dénomination, pas votre père ou votre mère. C'est très bien, mais derrière la parole de Dieu. C'est l'endroit où le croyant est protégé, derrière la parole. Quand cette petite voie d'accès a été brisée là-bas, avec un petit « je me demande si c'est vrai ou pas », ça ne... Le raisonnement est entré et a pris la place de la foi. Ils ont supprimé les barrières. Et Dieu a tenu sa parole, il l'a accomplie. Satan a essayé d'amener Ève à ne pas la croire, ou de raisonner. Ne raisonnez pas avec la parole. Vous dites, « Eh bien, je crois, vous n'avez aucun droit. » Quand Dieu dit quelque chose, il faut le faire simplement comme il l'a dit. Vous dites, « Eh bien, je pense, mais vous ne devez pas avoir une seule pensée à vous. Que la pensée qui était en Christ soit en vous. Et Christ est la parole. Que la parole soit en vous. » Toutes les autres paroles sont fausses. Les paroles de Christ sont vraies. D'autres croient Satan avec tous ses raisonnements, comme elle l'a fait. Le raisonnement, eh bien, pourquoi Dieu ferait-il ceci? Maintenant, ceci n'est-il pas aussi bon que cela? Si c'est contraire à la parole, ça ne l'est pas. Ainsi, toute chose, tout enseignant, tout commentateur de la Bible, tout ce qui pourrait vous enseigner ou essayer de vous faire croire quoi que ce soit, un seul iota qui soit différent de ce que dit cette Bible, c'est un faux enseignement. C'est Satan, encore une fois, exactement comme ça l'était pour Ève. Dieu continue d'avancer, peu importe ce qu'il fait, ce que Satan fait, Dieu continue de la confirmer. Maintenant, regardez ce qu'il a dit à Ève. Vous ne mourrez certainement pas. Vous deviendrez sage. C'est ce que le monde cherche aujourd'hui. Une preuve scientifique. La connaissance d'un homme. Et il a dit, vous ne mourrez certainement pas. Mais Dieu avait dit, vous mourrez. Et Dieu l'a prouvé. Et nous pouvons le voir. Il voulait dire exactement ce qu'il a dit. Allez au cimetière ici. Vous allez voir si c'est ce qu'il voulait dire ou pas. Le jour où vous en mangerez, ce jour-là, vous mourrez. Et quand vous vérifiez là, quel que soit l'homme ou son âge, il n'y a jamais eu un homme qui ait vécu 1000 ans. Dieu a prouvé sa parole parfaitement. Il le fera chaque fois. Mais souvenez-vous, il tient toutes ses promesses de bénédiction aussi bien qu'il garde ses malédictions. Parce qu'ils en ont mangé, ce jour-là, ils sont morts. Et il vous prouve qu'ils meurent vraiment le jour où ils en mangent. Il tient également chaque parole qu'il a dite au sujet de ses bénédictions. Chaque promesse, Dieu la tient. Oh, j'aime ça. Vous devez choisir celle que vous voulez. Ses bénédictions en la croyant ou ses malédictions en la pervertissant. Si vous la pervertissez et en croyez le côté perverti, alors vous êtes maudit. Si vous la croyez exactement comme il l'a écrite et que vous vous y tenez, alors vous êtes béni. Et c'est toujours contraire à la science, toujours contraire à la manière des scientifiques de démontrer les choses. Car il tient chaque parole, autant ses bénédictions que ses malédictions. Lorsque des hommes et des femmes ont péché dans le monde antédiluvien, il a, contre sa véritable parole, Adam et Ève ont péché contre sa véritable parole. Mais là, toutes les générations qui sont venues après eux se sont mises à faire la même chose. Alors, il a prononcé la mort sur eux. Et finalement, cela finit par un anéantissement complet de tout ce qui se trouvait sur la terre. C'était entièrement recouvert d'eau. Il a tout balayé par l'eau. Or, le même Dieu qui a causé un anéantissement total de tout ce qui se trouvait sur la terre, toute herbe, toute créature, sauf ceux qu'il a préservés et élevés au-dessus de la terre, tout ce qu'il avait promis de faire, il l'a fait. Et le même Dieu qui avait promis l'eau et qui a tenu sa parole, ce même Dieu promet le feu et il va tenir sa parole. Il va tenir sa parole. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Comment ont-ils connu sa parole? Parce que sa façon immuable de faire, de démontrer qui il est, avant de faire des ravages ou d'exercer un jugement, c'est qu'il envoie toujours la parole aux gens et il avertit toujours les gens. Oh, j'aime ça! Alors, nous pouvons voir exactement où nous en sommes. Il y avait toutes sortes de ministres et d'associations du temps de Noé. Et il y avait toutes sortes de religions du temps de Noé. Car Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Mais un prophète est entré en scène et il a commencé à faire quelque chose. Il a commencé à construire une arche. Et Dieu a envoyé son prophète, Noé, pour prouver qu'il avait envoyé sa parole et pour les avertir qu'une destruction allait venir, qu'il ne pouvait plus supporter la manière dont les gens agissaient, qu'il devait détruire l'homme qu'il avait un jour créé. Or, la parole est venue au prophète, comme toujours, il ne change jamais. Malachi 3 a dit, « Je suis Dieu et je ne change pas. » Noé a été envoyé dans un âge scientifique avec un message qui n'avait rien de scientifique. Noé a été envoyé dans un âge intellectuel avec un message qui n'avait rien d'intellectuel. Il a été envoyé dans un âge de science alors qu'il avait un message de foi et de promesse pour un âge scientifique. Alors, pourriez-vous croire qu'un âge scientifique croirait un message contraire à la science? Un âge de grands intellectuels. Et là, pourriez-vous croire qu'ils auraient foi en quelque chose qui semble absolument ridicule selon la pensée humaine? Mais Dieu le fait toujours comme ça. Noé était un prophète confirmé du Seigneur et le messager de Dieu pour cette heure. Il devait y croire. Les gens devaient croire son message après qu'il était confirmé par le Seigneur que c'était la parole de Dieu et que Dieu allait tenir sa parole. Or, c'est la même chose aujourd'hui. Nous sommes au temps de la fin. Maintenant, ces gens auraient dû le savoir. Voyez, maintenant, remarquez, Noé était un type des Juifs qui vont passer par la tribulation. Enoch était un type du vrai message, de l'enlèvement de l'Église, car Enoch a été enlevé. Ensuite, le déluge est venu. Et tous deux, le premier prophète, Enoch, a été ôté du chemin pour que Noé puisse continuer que Dieu puisse continuer avec Noé. Et maintenant, l'Église sera retirée pour que Dieu puisse traiter de nouveau avec les Juifs. Le reste des Juifs, les 144 000, comme nous l'avons vu dans les Écritures ici. Mais en dépit de tout cet âge scientifique et incroyant, Dieu a confirmé que sa parole de promesse était vraie en leur envoyant le déluge. Maintenant, souvenez-vous, à l'époque de Noé, il n'avait jamais plu sur la terre. Dieu avait une brume qui sortait de la terre pour l'irriguer, mais il n'avait jamais plu. Mais Noé a dit, « Il va pleuvoir ». Or, c'était, ils pouvaient prendre un instrument qu'ils envoyaient dans le ciel et dire, « Il n'y a pas d'humidité là-haut, il n'y a pas de pluie là-haut. Nous pouvons prouver qu'il n'y a pas de pluie là-haut. » Peu importe ce que la science disait, Dieu avait dit qu'il allait pleuvoir. Alors, c'était réglé. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? À mon avis, quand certains d'entre eux ont secoué un peu le monde et l'ont fait sortir de son orbite, alors, cela a fait basculer le côté arrière par ici, la chaleur de la terre dans le froid, et cela a simplement provoqué l'humidité. Et le monde a été recouvert en premier lieu, et les atmosphères là-haut, l'humidité dans l'air, se sont simplement unies pour former un nuage et la laisser descendre. Voilà tout. Maintenant, nous savons aujourd'hui qu'il y a du feu là-haut, car les gaz sont dans la terre. Et la Bible dit, les cieux et la terre passeront avec fracas, et la terre sera consumée. Nous savons donc que c'est là-haut, tout comme ça l'était à l'époque de Noé. Et maintenant, rappelez-vous que le message du temps de Noé n'était que par la foi et non par des preuves scientifiques. Mais aujourd'hui, le message est conforme à la parole de Dieu et prouvé par la science. Élie est venu en premier, accomplissant des miracles, sans jamais prêcher. Il n'allait que de lieu en lieu, accomplissant des miracles. La fois suivante, il est venu sous la forme de Jean-Baptiste. Il ne faisait pas de miracles, il ne faisait que prêcher. Et la troisième fois qu'il vient, il fait des miracles et il prêche. Vous voyez comment c'est? Observez la continuité des Écritures. Nous pourrions passer beaucoup de temps là-dessus, mais nous ne le ferons pas. Nous allons le mettre, car je pense que vous avez compris l'idée. Il a agi dans cet âge-là comme il l'a fait dans tous les âges. Et comme il le fera, exactement comme il l'a promis. Si Dieu promet quelque chose, alors il descend et prouve que sa parole est vraie. Tous ceux qui ont cru le message de cet âge-là, sont entrés et ont été sauvés. Il en sera de même dans tous les âges. Tous ceux qui n'ont pas cru le message et le messager ont péri. Et tous ceux qui croient vraiment la parole de Dieu aujourd'hui seront enlevés. Tous ceux qui ne croient pas la parole de Dieu vont périr avec le monde. car ils sont du monde, et tout ce qui est du monde doit périr avec le monde. Et tous ceux qui sont sauvés en Dieu doivent être en Dieu, et ils ne peuvent pas périr. Je leur donnerai la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Maintenant, quelle consolation pour tout croyant de savoir que lorsque vous êtes en Christ, aussi sûr que Dieu tient sa parole et fait périr le monde, il tient sa parole et ressuscite son peuple et le sauve. Il le prouve. Il a prouvé à Abraham que sa parole de promesse était vraie dans son âge. Remarquez, à l'époque d'Abraham, c'était impossible, selon la science, qu'un homme de 100 ans et qu'une femme de 90 ans puissent avoir un bébé alors qu'ils avaient depuis longtemps passé l'âge d'en avoir. Mais Abraham ne pouvait pas l'expliquer. S'il était allé chez le médecin et avait dit « Docteur, est-ce possible ? C'est impossible. » S'il était allé à l'hôpital et avait fait les préparatifs pour que la mère et le bébé, ou quoi que ce soit, si vous voulez faire la comparaison avec cet âge-ci, il le qualifierait de fou. Il a perdu la tête. Mais Dieu a dit, et la Bible dit dans Romains au chapitre 4, qu'Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, donnant la louange à Dieu, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Il fut satisfait et demeura ferme. Il est demeuré ferme, car il était pleinement persuadé que ce que Dieu avait promis, Dieu pouvait l'accomplir. Et nous sommes censés être ses enfants. Amen. Maintenant, je me sens religieux, voyez, juste d'y penser. Oh, il l'a prouvé. Après toutes ces années, il a changé Abraham et Sarah. Elle est redevenue une jeune femme. Et ils ont eu le bébé. Et Abraham et Sarah ont vécu 45 ans plus tard. Sarah est morte, et Abraham s'est remarié à l'âge de 145 ans, et il a eu 7 autres fils, sans compter ses filles. Alors qu'il avait passé l'âge d'avoir des enfants, il était stérile, il n'avait plus de semences, il ne restait plus de vie en lui, presque 100 ans auparavant. Amen. Pourquoi? Il ne considéra pas son propre corps. Il ne considéra pas le sein desséché de Sarah. Il ne considéra que ce que Dieu avait dit et savait que Dieu prouverait ce qu'il avait dit. Amen. Dieu prouve ce qu'il dit qu'il fera. Au milieu des non-scientifiques et des scientifiques et parmi tout ce qu'il y a, quelle que soit la chose, Dieu prouve qu'il a raison. Il confirme toujours sa parole. Il a raison. Tous les autres ont tort. Il l'a aussi prouvé à Lot quand il a dit « Si tu ne sors pas de cette ville, je vais la brûler ». Et il a dit à Abraham que s'il pouvait trouver 10 hommes, il épargnerait la ville. Et il n'a pas pu trouver les 10 hommes. Alors il a prouvé que sa parole était vraie. D'où venait le feu? Il n'y en a pas ici, dans ces plaines, dans ces fosses de bitume. Mais Dieu l'avait dit, et Abraham savait que cela allait se produire. Lot savait que c'était vrai, et il a fui vers la montagne. Il a promis que sa postérité habiterait un pays étranger, et serait mal jugée par le peuple, qu'ils allaient séjourner, la postérité d'Abraham, pendant 400 ans, parmi des étrangers, parmi un peuple étranger. Et il a accompli sa parole à la lettre, exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. La postérité d'Abraham a séjourné en Égypte 400 ans. Il avait également promis de les délivrer par une main puissante, par une main forte. Il délivrerait le peuple de l'esclavage égyptien. Et il a tenu sa parole. Regardez ce qu'il a dû faire pour amener ses enfants en Égypte. Il semblait qu'un désastre s'était abattu, s'abattait et tout. Il semblait que c'était horrible pour Joseph d'être considéré mort. Et le pauvre Isaac, ou Jacob son père, ou Isaac son père plutôt, c'est-à-dire Jacob. Isaac était son grand-père. Jacob son père, de croire que son propre fils avait été tué par des animaux. Comme c'était difficile pour le petit Joseph de savoir que le pauvre garçon, loin de sa famille, trahi par ses frères, jeté dans une fosse, prétendument mort, du sang de brebis mis sur son manteau, ils avaient tué un agneau pour le manger, et avaient mis du sang sur le manteau et l'avaient apporté à son père, et lui de savoir tout cela. Mais Joseph pouvait se souvenir d'une chose, que la main du Seigneur était sur lui, Il savait qu'il était un croyant. Peu importe combien ses frères l'avaient rejeté et qu'il n'avait reçu aucune collaboration ni rien d'autre, Joseph savait que Dieu allait tenir sa parole. Quand il a eu cette vision où tout s'inclinait devant lui, il a su que cela devait arriver. Parce que c'était ainsi dit le Seigneur. Amen. Peu m'importe combien ça ne semblait pas raisonnable, Joseph savait que c'était la vérité. Peu importe à quel point la tâche était difficile et ce qu'il devait traverser, il savait qu'un jour, chacun d'entre eux allait s'incliner à ses pieds. Comment allait-il le faire alors qu'il le détestait? Mais il savait que Dieu allait prouver que c'était sa parole. Chaque fois, il le fera aussi aujourd'hui. Dieu va prouver que c'est sa parole. Même si la science dit, c'est impossible. Peu importe combien nous devenons instruits et intellectuels, combien les églises sont plongées dans un tas de formalités et ainsi de suite. Dieu prouvera toujours que sa parole est vraie. Reposez-vous dans cette parole. Oui, Joseph a dû traverser beaucoup de choses. Mais pour se retrouver en Égypte, mais Dieu l'en a fait sortir exactement comme il l'avait dit. Un très beau type d'aujourd'hui, si nous avions le temps de le voir. Je crois que nous l'avons vu auparavant, ici au tabernacle. Mais Dieu a tenu sa parole, parce qu'il devait rester là-bas. C'était difficile pour ces enfants hébreux d'être sous l'esclavage égyptien. Eux, qui avaient été bénis et avaient reçu le fruit de la terre, le meilleur endroit, Goshen. De voir qu'ils étaient devenus esclaves. Ces mères, de voir céder aux mains d'un soldat égyptien le fruit de leurs entrailles, leur petit bébé chéri, et voir ce soldat prendre un gros couteau pour l'éventrer, le jeter par terre et le donner à manger aux alligators. Or, c'était une chose difficile pour eux de traverser tout ça. Mais un jour, la semence prédestinée est née, un enfant qui était l'enfant approprié. Quelque chose en lui semblait étrange. Là, derrière le désert, un jour, le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colonne de feu et s'est installé dans un buisson et a dit, « J'ai entendu les gémissements de mon peuple et je me souviens de ma promesse. Le moment de la délivrance est proche et je t'envoie là-bas pour faire cela. » Avec un bâton à la main, sa femme sur un mulet, avec un bébé sur ses genoux. Il accomplit cela par la puissance du Dieu Tout-Puissant. La chose la plus ridicule, qu'est-ce qu'un bâton tordu pourrait faire contre 10 000 lances? Mais voyez-vous, Dieu s'y trouve. Ça dépend de l'endroit où se trouve sa parole. Moïse avait sa parole. Pharaon avait des lances. Moïse avait la parole. C'est tout ce dont il avait besoin. C'était de la parole. C'est tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Ce n'est pas des papiers d'une église. Vous n'avez pas besoin qu'une dénomination vous appuie. Vous avez besoin de la parole pour partir dans l'enlèvement avec elle. Vous n'avez pas besoin d'un papier quelconque. Vous n'avez pas besoin d'avoir reçu tout l'historique d'une école pour être guéri ce matin. Vous devez accepter la parole. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de l'opinion du médecin. Si le médecin dit qu'il a fait tout ce qu'il pouvait faire, c'est tout ce qu'il peut faire. Il dit que vous avez un cancer, une tumeur, que vous devenez aveugle, que vous êtes sourd, muet, quoi que ce soit. Ça n'a pas d'importance. Si vous pouviez amener cette parole vers cette promesse ardente du buisson là-bas, amen, quelque chose va se passer. Dieu va prouver que c'est sa parole, chaque fois qu'elle est reçue dans la bonne sorte de terre. C'est ce dont vous avez besoin, sa parole. Il la prouve, il la tient. Vous pouvez être sûr qu'elle est vraie. Il prouve sa parole dans chaque âge, de la manière la plus inhabituelle qui soit, mais il le fait toujours de la même manière. Voyez, qu'a-t-il fait au jour de Noé, quand il était sur le point de délivrer le reste? Il leur a envoyé le prophète Noé. Il a envoyé Noé un signe. Et maintenant, remarquez, quand il vient délivrer les enfants d'Israël, que fait-il? De la même manière, il envoie son prophète à la parole. Les signes et les prodiges de la parole promise confirment cela, que c'est exactement la vérité. Israël s'est mis en route vers le pays promis, parce qu'ils y croyaient. Et au cours du voyage dans le désert, ils ont douté de ce prophète, après avoir vu la parole être vraiment confirmée. L'épouse est sortie du pas, Vous savez de quoi je parle, de la vision, voyez, sortie du pain. Il y en a un qui est resté en ligne, du nom de Josué et Caleb, qui croyait que la parole de la promesse était vraie, en dépit des circonstances. Regardez, quand ils sont arrivés à Kadès-Barnéa, Moïse a envoyé un homme de chaque tribu pour aller explorer le pays, pour voir par où ils allaient entrer. Et il a envoyé son général, Josué, qui était prophète. Et il a envoyé un prophète mineur sous Moïse. Et Josué a écouté Moïse. Et ils l'ont envoyé. Puis il a dit, « Allez, explorez ce pays. » Et le général est allé choisir un homme de chaque tribu. Et ils sont partis. Il a pris Caleb, son bras droit, car il savait que Caleb croyait. Ils sont allés dans le pays promis et sont revenus avec une grappe de raisins si lourde qu'il fallait deux hommes pour la porter. Et là, il a dit, afin qu'Israël ait la preuve avant même d'entrer dans la promesse. Vous voyez, ils auront la preuve de ce que Dieu a dit, que c'est un bon pays rempli de lait et de miel. C'est un pays formidable. C'est un bon pays. Or, votre eau, tous ces ailes, ces poireaux et tout ce que vous avez ici en Égypte, maintenant, nous vous emmenons dans un pays où coule le lait et le miel. Vous n'avez probablement jamais goûté ni l'un ni l'autre, du lait ou du miel, là-bas en Égypte, pendant toutes ces années. Ils ne vous donnaient que la ration des esclaves. Mais maintenant, vous allez dans ce pays. Alors, juste au moment où ils arrivaient à environ une journée de marche, à Kadès-Barnéa, où se trouvait le grand tribunal du monde, ils se sont arrêtés sous ces grands palmiers, près des sources, et ils ont campé. Il a dit, « Maintenant, pour que les gens sachent, regardez quelle preuve parfaite, réelle et parfaite, que Dieu a fait cela comme il le fait aujourd'hui. » Il a dit, « Maintenant, Dieu a dit, le pays est formidable. Maintenant, avant que vous traversiez, je veux que vous voyez combien le pays est formidable. Alors, ramenez-moi des preuves du pays et montrez-les au peuple. » Ainsi, ils sont allés là-bas. Et alors, chaque fois que vous ramenez une preuve, l'ennemi se trouve sur la route. Quand certains d'entre eux ont regardé et vu ces grands géants de Canaan, oh là là, ils ont dit, nous ne pouvons pas le faire. Mais ils ont ramené la preuve que le pays était là. Ils n'avaient pas été conduits dans l'erreur. Dieu leur prouvait sa parole avant même qu'ils entrent dans le pays. Ne voyez-vous pas, aujourd'hui, que si vous conduisez 1000 kilomètres pour entendre la parole et la voir être prouvée et confirmée, c'est la preuve que c'est un pays formidable? Vous pouvez voir l'ombre d'un homme étendu, se mourant d'un cancer, être rétabli. Si nous voyons les paroles que Dieu a prononcées se produire en ce jour et être confirmées, c'est la preuve qu'il tient sa parole. Il y a un pays formidable. Si ma vie est sur le point de se terminer et que Dieu descend et l'épargne encore, cela montre qu'il existe une preuve de la vie éternelle. Là où autrefois, vous n'auriez pas voulu franchir la porte de cette église. Maintenant, vous faites la queue pour y entrer. C'est une preuve. Dieu tient sa parole et vous prouve qu'elle est vraie. Vous conduisez des milliers de kilomètres. Je suis arrivé ici ce matin et j'ai regardé là. Je voyais des gens en train de nourrir leur bébé à l'aide d'une bouteille de Coca-Cola. Un peu de céréales, vers 5 heures du matin, assis sur ce terrain. J'ai pensé, « Oh Dieu, je serais le plus grand hypocrite du monde si je laissais ces gens parcourir toute cette distance et que je leur disais quelque chose de faux. Mais j'ai de la sympathie pour eux. Mon cœur se prend de compassion pour eux. Ils ont faim et soif de Dieu. Aide-moi, Seigneur, à leur dire la vérité ou retire-moi de ce monde. Laisse-moi dire la vérité à ces gens. Alors aide-moi, ô Dieu. » J'ai dit, tiens ma main et fais-moi connaître la vérité. Et ensuite confirme que ce que j'ai dit est la vérité, afin qu'ils sachent que cela est la vérité. Ne permets pas que ces pauvres gens soient séduits. Non. Combien mon cœur se prend de compassion pour une telle chose, de voir des gens si fidèles. J'imagine que Josué a pensé la même chose le jour où il les a rassemblés et les a vus laver leurs vêtements et se préparer pour le troisième jour. Oui, il l'a prouvé. Bon, qu'est-ce que Josué a dit quand ils ont dit, « Oh, nous ne pouvons pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Nous devrons sortir de notre organisation. Nous sommes finis, voyez. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons simplement pas faire ça, parce que ce n'est pas raisonnable. Et quand Josué les a conduits là-bas, c'était au mois d'avril, quand les eaux étaient hautes et le Jourdain était presque aussi large que la rivière Oyo. Il semblait que Dieu avait fait une erreur terrible. Vous savez, parfois vous tombez malade et vous dites, « Eh bien, je suis chrétien. Dieu, il a fait une erreur. Il m'a laissé tomber malade et je suis un chrétien. » Ne vous rendez-vous pas compte que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? L'endroit où Josué les a conduits, là, le niveau du Jourdain est très bas. Vous pouvez le traverser à gué presque partout, à moins de tomber dans un trou d'eau assez profonde. Vous le pouvez, avec tous les petits gués et tout, là, sur la rive, où Jéricho se situait. Eh bien, c'est pour ça que vous pouvez le traverser à gué. Le niveau de l'eau dépasse à peine la hauteur de la cheville. On peut le traverser en jeep, conduire, traverser en voiture, traverser à pied, ou par n'importe quel moyen. Mais il les a conduits là au mois d'avril, alors que le pays était inondé sur environ 1 kilomètre. La profondeur de l'eau était probablement de 10 à 12 mètres. Et il a dit, « Le troisième jour, nous allons traverser. » Dieu l'a dit, « Réunissez les gens et sanctifiez-les, car le troisième jour, vous allez traverser le Jourdain. » Voyez-vous comment Dieu a permis que cette chose se produise, juste pour y arriver, faire que les gens, juste pour faire sortir son peuple. Qu'ont-ils fait? Ils se sont purifiés et se sont préparés, en dépit de la profondeur de l'eau, et combien c'était boueux, et combien le courant était fort. Voyez, ils savaient que Dieu allait prouver sa parole. Peu importe la situation, combien vous êtes proche du Jourdain, quelles que soient les circonstances. Si vous pouvez simplement garder cette promesse de Dieu dans votre cœur, Dieu va le prouver que cela est authentique. Au milieu de toute incrédulité, il va toujours prouver que cela est authentique. Oui, il le fait. Et les circonstances ne l'arrêtent pas. Il agira toujours de la même manière qu'il a fait autrefois. Remarquez, c'est par ses croyants qu'il prouve sa parole. Il ne peut prouver sa parole que pas par les incroyants. C'est seulement par les croyants qu'il peut prouver sa parole. Peu importe combien les autres ont prétendu l'être. Oh, je crois, frère. Voyez, si vous croyez, Dieu va le prouver. Parce que nous regardons et nous voyons les autres. Comment pouvons-nous le savoir alors? Voyez, c'est par les vrais croyants qu'il prouve sa parole. Pas par ceux qui disent croire, mais ceux qui croient vraiment. C'est par ses enfants qui croient qu'il prouve sa parole. Maintenant, il avait les croyants. La vieille récolte était morte. Les incroyants qui disaient, nous ne pourrions pas le prendre. Il a laissé chacun d'eux périr. Pourquoi? Chacun d'eux, sauf les croyants. Qui restait-il? Moïse avait été pris dans la gloire. Et les incroyants avaient péri dans le désert. Et ici, c'était leurs enfants. Il n'y en a que deux qui ont traversé, et c'étaient les croyants, Josué et Caleb. Ils étaient les croyants, ce sont eux qui ont traversé. C'est la seule façon pour Dieu de le faire, c'est par ses enfants qui croient. Vous croyez ça? Très bien, ses croyants étaient ceux qui y sont parvenus, c'est eux qu'il a utilisés pour traverser. Voyez? Maintenant, je veux que vous remarquiez, il agit de cette façon dans chaque âge. Chaque fois, il utilise la même façon de faire. Il doit prendre des croyants. Et puis, pour amener des croyants à cette parole, il doit prédestiner ça pour cet âge-là. Vous le voyez? Il doit prédestiner cette chose à être là pour relever le défi de l'âge. Est-ce que cela vous a touché? L'avez-vous ressenti? L'avez-vous vu? Le comprenez-vous? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il l'a prédestiné à ceci par sa prescience. Ce qu'il a prédestiné là, dans Malachie 4, doit arriver. Quand il vient et prédestine de sa parole que quoi que ce soit doit arriver, il doit prouver que sa parole est vraie. Quand il prédestine que quoi que ce soit doit arriver et qu'il dit que cela va arriver, il sait que cette semence sera là à ce moment précis. Il a prédestiné une épouse, elle sera là. Il y aura un enlèvement, elle sera là. Il prédestine cela par sa prescience. Voyez, rien ne va arrêter ça. Lorsque Dieu leur a dit, « Maintenant je vous donne la promesse d'un pays promis. J'ai dit à votre père Abraham que ses enfants allaient séjourner ici pendant 400 ans. » Eh bien, Moïse a dit, « Je suis le prophète du Seigneur. Maintenant, regardez et voyez ce que je prophétise. » Si ça s'accomplit, alors vous saurez que le Seigneur m'envoie, car vous savez que Dieu vous a déjà dit cela. Bon, maintenant, si je prophétise ceci et que ça arrive, puis cela et que ça arrive, puis ceci et que ça arrive, chaque fois, ça ne manque jamais. Or, vous savez que le Seigneur m'a envoyé pour vous le dire. Maintenant, il y a un pays promis que Dieu a promis. Voyez ? Et Dieu a promis ce pays. Maintenant, c'est un bon pays où coule le lait et le miel. Suivez-moi. Et comme ils sont partis dans le désert, où ils devaient faire route pour les emmener dans le désert, là où Dieu lui avait dit de les emmener au mont Sinaï. Alors Dieu est descendu devant tout Israël, dans une colonne de feu, et a confirmé que ce que Moïse avait dit, c'était là. Prouvons que c'était vrai. Confirmons Moïse là-bas. Moïse a dit que j'étais sur cette montagne. Je lui suis apparu sous la forme d'un buisson ardent. Et maintenant, j'ai embrasé toute la montagne. Ils ont dit, alors, que Dieu ne parle pas, que Moïse parle. Nous allons périr. Il a dit, je ne ferai plus cela. Je leur susciterai un prophète. Il leur parlera en mon nom. C'est ce qu'il fait. C'est exactement comme ça qu'il accomplit sa parole. Remarquez, alors ceux qui n'ont pas cru, après avoir été si près du pays, et ils ont douté, bon, vous qui prenez des notes, inscrivez Hébreux 6, ici même, où il est dit, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont part au Saint-Esprit, puisqu'ils sont tombés, d'être encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie, il est impossible que cela soit sauvé. Voyez, tout aussi impossible pour eux d'entrer dans ce pays promis. Les gens viennent jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ils vont venir jusqu'à la parole. Ils vont venir par toutes les dénominations, toutes les églises et tous les catéchismes et tout. Mais quand il s'agit de cette parole, cette ligne de démarcation, ils disent, « Oh, je ne suis vraiment pas sûr de cela. Mon église ne l'enseigne pas comme ça. » Peu m'importe ce que votre Église enseigne, la Bible dit que c'est comme ça. Ensuite, vous dites, comment puis-je savoir que cela est vrai? Il confirme cela et le prouve. Maintenant, ce jour-là, la Bible a dit, il y a un bon pays là-bas, qui est rempli de lait, de miel, de beaux raisins et de grenades. Et, oh, c'est un endroit magnifique. Eh bien, ils ont dit, bon, que certains de vous s'y faufilent et y jettent un coup d'œil, puis reviennent, afin que nous puissions rassurer ces gens. Nous allons tout de suite nous rendre là-bas, si seulement vous y croyez. Et voilà, ils sont partis. Et voici qu'ils reviennent. Oh, deux d'entre eux, en criant, eh bien, que Dieu soit loué, nous l'avons vu, nous l'avons vu. Oh, c'est merveilleux, il n'y a rien de tel. Le reste, les 10 autres qui étaient là, disaient, « Oh non, 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 nous ne pouvons pas le faire. » Combien ils sont entrés? Ces deux-là, c'est vrai. Ces deux-là, car ils savaient que Dieu allait prouver que sa parole est vraie. Remarquez, aucun Jourdain qui déborde. Non, monsieur, aucune rive du Jourdain inondée, ni aucun géant de Canaan ne pouvait les arrêter. Dieu a prouvé que sa parole était vraie. Il les a fait entrer directement dans le pays. Il fera encore la même chose. Oui, monsieur, quant aux promesses d'aujourd'hui, il prouve sa parole. En dépit de tout, il prouve sa parole. Un jour, il a fermé la gueule de lion mangeur d'hommes affamé pour prouver que sa parole était vraie. À Daniel, le prophète, prouver qu'il pouvait délivrer. Et ces lions étaient constamment nourris de chair humaine. On laissait ces lions être affamés afin que lorsqu'un homme tombait là, ou un enfant, peu importe ce qu'on jetait là, c'était la peine capitale. Ce lion les déchirerait en morceaux, cette bande de lions affamés. Ils ont pris ce prophète qui avait la parole du Seigneur pour les enfants d'Israël, qui avait prophétisé qu'ils s'empareraient de cet endroit-là. Et voilà qu'il était là avec eux. Mais Dieu n'avait pas encore terminé. Il voulait prouver sa parole, qu'il pouvait délivrer. Et on a affamé ces lions et on a jeté ce prophète là-dedans et ils se sont précipités vers lui comme ça. Cette colonne de feu se tenait là et tout animal a peur du feu. Cette colonne de feu se tenait là. Les lions se sont couchés. Il a tenu sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu tient sa parole. Il prouve cela. Il prouve qu'elle est la vérité. Maintenant, il a retiré la chaleur du feu, de la fournaise ardente, pour prouver sa parole, pour prouver qu'il pouvait délivrer du feu. au milieu de ces flammes où on avait jeté ses enfants. Et ils sont restés longtemps là-dedans, alors que même les hommes qui les y avaient jetés, la chaleur intense de la fournaise avait tué les grands soldats qui les conduisaient là-dedans. Et Dieu a laissé le feu continuer de brûler, mais il en a retiré la chaleur. Il apporte la preuve. Si vous vous tenez à ses côtés, il se tiendra à vos côtés. Se tiendra à vos côtés? Eh bien, certainement. Une heure plus tard, ils ont ouvert la porte et ont dit, « Dites donc, combien en avez-vous mis là-dedans ?» Il a dit, « Nous en voyons trois que nous avons mis là-dedans. » Il a dit, « Il y en a quatre là, et l'un d'eux ressemble au Fils de Dieu. » Voyez, il démontre. Pourquoi ça? Il est la parole. Et ils ont dit, Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise ardente. Mais pourtant, nous ne nous inclinons devant aucune image, car nous restons avec la parole. De toute image, de toute forme de religion, éloignez-vous de cela. Dieu va se tenir à vos côtés. Il retirera la chaleur de la persécution. Il retirera la vie du cancer. Il retirera Il fera tout. Il est Dieu. Tenez-vous à ses côtés, il se tiendra à vos côtés. Il prouve que sa parole est vraie, chaque fois. Il a retiré la chaleur du brasier, a fermé la gueule des lions et tout le reste. Voici une autre chose que Dieu a faite pour montrer qu'il était Dieu. Les hommes en sont venus, après avoir été dans ce désert, à se procurer des diplômes, à devenir des hommes importants. Ils avaient des organisations appelées les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens et quoi encore. Et c'était des hommes importants. Ils nommaient des sacrificateurs parmi eux. Et ils faisaient de grandes choses comme ça. Ils nommaient de grands sacrificateurs et de grands hommes, des dignitaires et ainsi de suite. Mais Dieu, au milieu de tout cela, il a suscité un prophète, le fils d'un sacrificateur. Jamais. Il est parti dans le désert à l'âge de 9 ans. Il ne pouvait pas lire son nom, même avec des lettres de la taille d'un wagon. Pourquoi l'a-t-il fait? Il était un prophète. S'il avait été formé selon l'instruction de son père, il aurait probablement été un pharisien ou un sadducéen ou un de leur groupe. Mais il avait un travail important. C'était d'annoncer le Messie. Pourquoi ça? Dieu a tenu sa parole et l'a prouvé. La voix de celui qui crie du séminaire. Voici, j'ai mon doctorat. Ce serait peut-être dans l'almanach des anniversaires des dames de l'âge d'or, mais pas dans la parole de Dieu. Il a dit, la voix de celui qui crie dans le désert pour réparer le chemin du Seigneur et aplanisser ses sentiers. Était-il en train de préparer le chemin de la parole, là, afin que la parole puisse être manifestée? Alléluia! Ne voyez-vous pas par les ombres? Arrêtez ici un instant. Dans les derniers jours, il doit y avoir un endroit préparé pour que la parole soit manifestée. Et nous vivons maintenant par l'évidence du pays nouveau. Amen. Le Fils de l'homme, la commission de Jean, sans instruction ni rien, il est resté dans le désert. Il utilisait des types dans ses prédications. La cognée est mise à la racine de l'arbre. C'est ce qu'il voyait. Abattre à la hache, construire son abri, faire un feu pour brûler son bois. Oh, race de serpents, c'est ce qu'il voyait. La pire chose dans la jungle, selon lui, dans le désert, c'était un serpent. Il a dit, race de serpents, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ne vous mettez pas à dire, nous avons ceci, et nous faisons partie de ceci, et nous faisons partie de cela. De ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. La cognée est mise à la racine de l'arbre, et chaque arbre qui ne produit pas de bons fruits, que faisait-il dans le désert quand il meurt, fournir des sauterelles et tout pour lui? Il le coupait et le brûlait. Voyez, il amassera le blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Un homme comme ça, qui n'a même pas de vêtements ecclésiastiques, pas même un bonnet de sacrificateur. Voyez, il se présente avec une peau de mouton drapée autour de lui, avec un morceau de cuir retiré du dos d'un chameau, serré autour de lui, et s'est présenté là, avec sa barbe et ses cheveux ébouriffés comme ça. Il a dit, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Amen. Il est venu avec audace. Pourquoi? C'était la parole de Dieu qui était prouvée. Dieu peut de ces pierres-ci. Dieu l'a promis. Voici, j'envoie mon messager devant ma face. Ce n'est pas une preuve très religieuse, scientifique ou religieuse, Mais c'est la preuve de la parole de Dieu. Dieu tenait sa parole, voyez. Pas du tout un érudit, mais un prophète envoyé au nom du Seigneur. Il a fait ça. Pourquoi? Pour confirmer sa parole. Maintenant, ces sacrificateurs ont dit, « Eh bien, nous savons qu'il y en a un qui viendra dans les derniers jours. Alors, nous allons éduquer tous les garçons que nous avons et nous préparer pour ça. Chacun de vous, les garçons, doit avoir une formation universitaire. Vous devez venir ici, sans doute que ce sera de la lignée, il viendra de la lignée des Lévites, car c'est d'elle que vient le sacerdoce. Mais il n'était pas un sacrificateur, il était un prophète, et c'était le choix de Dieu. Il ne doit pas forcément venir d'une certaine dénomination ou d'une certaine lignée. C'est le choix de Dieu, par prédestination, par préscience. Il vient selon la manière de Dieu de choisir. Alors, ils ne l'ont pas cru, parce qu'il n'est pas venu selon la manière qu'ils l'avaient figuré, qu'ils pensaient qu'il viendrait. Ça pourrait se répéter encore, vous savez, c'est habituellement le cas. Mais nous voyons qu'il est venu selon la manière pourvue par Dieu, pour prouver sa parole. Remarquez, il a fait que la Vierge conçoive, pour prouver sa parole. Ésaïe 9, 6, où nous voyons ceci, « Un fils nous est né, un enfant nous est donné ». Or, nous voyons qu'il a dit qu'une vierge devait concevoir. Et Dieu a fait qu'une vierge conçoive. Pourquoi? Pour prouver sa parole. Bon, écoutez, dans quelques minutes, nous allons terminer. Il a fait qu'une vierge conçoive pour prouver sa parole. C'était absolument... Ça a laissé tous les scientifiques perplexes de procéder. Vous avez compris cela, n'est-ce pas? Voyez, la terre est maudite. La terre entière est maudite. À cause du péché d'Adam. Mais quand cette petite semence... Bon, la femme n'a pas de semence. Elle a un champ où la semence est posée, pas une semence, car il n'y a pas de germe. Le germe doit... Une semence doit posséder la vie en elle. Sinon, c'est juste une matière, sans vie. Donc, la semence est dans l'homme. C'est pourquoi la semence du serpent devait se retrouver dans la femme. Car ce n'était pas la semence de Dieu. Nous savons cela. Allez, attendez d'avoir ce livre et de le lire. Et alors, vous verrez. Ou de vous le montrer par les Écritures. Là, tout va s'ouvrir, comme le baptême d'eau en son nom. Vous verrez ce qu'il en est. Dieu n'a jamais tort. Il a toujours raison. Bien que vous ne puissiez pas le comprendre, croyez-le de toute façon. Voyez, c'est exactement la vérité. Et maintenant, nous découvrons qu'il a dit ceci. Il a fait que ceci s'accomplisse. Or, que cette petite semence, sans l'entremise de l'homme, est entrée dans un petit ovule, dans le champ que lui avait créé, alors cette petite semence, le petit germe, a pénétré dans l'ovule, et la petite queue s'est détachée là, et le germe a commencé à développer cellule après cellule, tirant sa vie de la mère, de son corps, et là, elle le nourrit par son sang. Et nous découvrons maintenant, elle le nourrit, pas le sang du germe, c'est son sang à elle, non. Il ne possède pas une seule goutte de sang de la mer, mais il se nourrit des vitamines de la mer, mais pas de son sang. Il est entièrement environné du sang de la mer pour le protéger des chocs et des choses comme ça, et l'eau, mais il ne possède pas une seule goutte de sang de la mer. La mère peut se mourir de tuberculose et mettre le bébé au monde. Cela ne peut pas lui être transmis par hérédité, car la tuberculose est un germe qui vient par le système sanguin. Mais elle peut, il peut. La tuberculose n'est pas héréditaire. Les faiblesses le sont, mais pas la tuberculose. Car pour attraper ce germe, il doit aspirer le souffle de la mère, voyez-vous, avant que cela soit possible. Le bébé en est parfaitement exempt à la naissance, car il ne possède pas de sang de la mère. Maintenant, nous voyons que Dieu est venu dans cette petite cellule, voyez ? Et qu'il a commencé à développer des cellules, et de sa mère, il a tiré des vitamines et des choses venant de ce qu'elle mangeait. Puis, quand il est devenu assez vieux pour manger par lui-même, il a commencé à manger. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est la poussière de la terre, d'où vous venez et d'où vient la vie botanique, la vie animale, et ainsi de suite. Et comme il a commencé à manger du poisson et du pain, et ainsi de suite, des cellules ont commencé à se développer. Puis, en arrivant à pleine maturité, à l'âge de 30 ans, il a été baptisé en obéissance à Jean, ici-bas, ou à Dieu, dans l'eau, et il en est sorti. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? La colombe, qui était Dieu, est descendue du ciel, avec une voix qui a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me plaise à demeurer. » Qu'est-il venu faire? racheté cette partie de la terre. Il était le commencement de la création de Dieu. Parce que Dieu n'est pas une création. Ce n'est qu'en Christ qu'il est une création. Car Dieu est éternel, et il est un esprit, et un esprit n'est pas créé. Il était le commencement de la création de Dieu, et Dieu a racheté ce corps-là. Voyez, quand il est descendu, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Alors lui, Dieu, est descendu après avoir passé par ceci, et ainsi chaque fils qui mange et qui est né d'une naissance naturelle par le sexe, de la façon dont vous venez, donc, quand vous arrivez ou vous passez par le baptême d'eau, ensuite par le baptême du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit descend dans un baptême de feu et revendique cette création, tout comme il l'a fait pour lui. Le Saint-Esprit est Dieu, c'est le même Esprit, voyez, il descend et revendique ce corps pour la résurrection. Et il a été ressuscité pour notre justification. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Aucun ne sera perdu. Je les ressusciterai au dernier jour. Aucun cheveu de leur tête ne périra. Cela, c'est le commencement de la création de Dieu. Ceci, c'est la continuité de la création de Dieu. Ensuite, la terre entière doit avoir un baptême. Et alors le Saint-Esprit descend dans une cité pour habiter sur la terre. Et le tabernacle de Dieu est avec les hommes et habite avec eux. Dieu a établi sa demeure ici sur la terre. Tout ce plan de la rédemption, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, tel que c'était alors. Bon, remarquez, il a fait que cette Vierge a conçu, et c'est ainsi qu'elle a enfanté un fils, sans connaître d'homme. Cela a rendu la science perplexe tout au long des âges. C'est encore le cas. Ils se sont peut-être moqués d'Ésaïe quand il a parlé et a dit que cette Vierge allait concevoir. Et là, comment cela pourrait-il être possible? J'imagine Ésaïe, son embarras, quand il a entendu Dieu dire « Je leur donnerai un super signe, je leur donnerai un signe perpétuel, une vierge concevra. » Maintenant, lui, estimé parmi les gens, son peuple, un prophète, confirmé par Dieu. Maintenant, quand il est arrivé devant les médecins et ainsi de suite, avec cette déclaration, une vierge concevra. Vous voyez, ça ne s'était jamais vu depuis le début des temps, quand Dieu avait créé son premier homme. Mais ici, maintenant, qu'une femme qui se trouve sur la terre concevra, pensez-y d'une manière rationnelle. Ce prophète a été embarrassé, mais il savait que Dieu allait tenir sa parole, qu'il allait la prouver. J'imagine que chaque famille d'Hébreux préparait sa petite fille à voir ce bébé, voyez. Elle achetait des chaussures et des chaussons, ou quoi qu'il portait, des petites couches, et se préparait pour la venue du bébé. Des générations ont passé. Mais Dieu a prouvé sa parole. Une vierge a conçu et elle a mis le bébé au monde. Ce qui a prouvé que la parole de son prophète était la vérité. Il les appuie toujours. Ce fils de la vierge était la parole manifestée. Bon, dans Jean 1, si vous voulez lire cela, Jean 1, ce prophète aussi. Mais ce fils de la vierge était la parole manifestée, le commencement de la création de Dieu. Bon, la terre entière est la création de Dieu, mais elle est perdue. Voyez, alors il rachète cette terre. Vous êtes une partie de la terre, et il vous rachète de la même manière qu'il rachète la terre entière. Voyez, alors ce fils de la Vierge était la parole manifestée. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Satan a essayé tous les stratagèmes pour qu'il discrédite ceci. Satan a fait tout ce qu'il pouvait pour qu'il discrédite ça. Il a essayé de lui offrir le royaume sans passer par la souffrance, a essayé de l'amener à le prendre sans passer par la rédemption, alors que c'était le plan de Dieu dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a tué l'agneau, qu'il ne pourrait le prendre que par le sang. Il lui a même promis tous les royaumes du monde s'il l'acceptait. Pensez-y, quelle promesse! Ne vous rendez-vous pas compte, mes chers et précieux amis, qu'en ce moment même, Satan vous fait une promesse pour... Il fera de vous l'un de leurs meilleurs ministres de l'association. Il vous donnera la première place dans chaque église et fera de vous un diacre. Il fera n'importe quoi si seulement vous vous éloignez de cette parole. Maintenant, remarquez, faire de chaque, lui donner le monde et tous les royaumes. Il aurait pu les prendre. Il essayait de l'amener à transgresser cette parole, car il savait que là, il l'aurait piégé s'il le pouvait. Il a amené Moïse à la transgresser, il a amené Ève à la transgresser. Mais cette fois-ci, il est tombé sur la mauvaise personne. Pourquoi? Il était la parole, et il ne le savait pas. Il était lui-même cette parole. Je peux le voir. Nous voulons le représenter comme une image d'enfant. Je peux voir ses grandes ailes noires arriver vers Ève et dire, « Maintenant, je vais te dire quelque chose. C'est plaisant. Tu devrais essayer. » Mais Dieu a dit que si nous le faisons, nous mourrons. Eh bien, vous ne mourrez certainement pas, vois-tu. Oh, c'est absurde. C'est une idée de vieux schnock. N'en crois rien. Mais Dieu l'avait dit. Dieu a prouvé que c'était vrai. Et il le prouve en ce moment. Des gens meurent en cet instant même. Il prouve encore que c'est vrai. Remarquez, quand il est venu vers Moïse, il a dit, « Moïse, tu sais que tu es impétueux. Tu es colérique. Regarde ce que ce groupe de renégats a fait, vois-tu? Pourquoi ne pas aller là-bas et leur dire ta façon de penser? » Et il l'a fait. Mais quand il a frappé cette ligne de tension de 10 000 volts, elle a brûlé ses plumes quand il s'est heurté contre lui. Il a dit, « Oh, écoute, a-t-il dit, je vais te donner tous les royaumes. » Il est écrit, voyez, il est écrit. Là, il a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, voyez, il en a toujours douté. » Il enseigne encore aux autres à en douter. Il a enseigné à Ève à en douter. Il a enseigné à Moïse. Il leur a tous enseigné à essayer d'en douter. Il vous enseigne à essayer d'en douter. Et vous qui êtes assis ici en ce moment, si vous voulez que je dise vos noms, ça fait longtemps que Satan essaye de vous faire douter de moi. Ne faites pas ça. Sœur, si vous le faites, eh bien, vous, ou pas de moi, mais simplement doutez, croyez simplement cette parole. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais croyez ceci. Voyez, si je prononce cette parole, ce n'est pas la mienne, c'est la sienne. Ma parole est différente, mais ceci, c'est la sienne. Voyez, remarquez maintenant. Remarquez, je ne veux pas entrer là-dedans en ce moment. Remarquez la promesse, toutes ces paroles, tout est entièrement vrai. Il les a prouvées. Il a prouvé, parce qu'il a prouvé qu'il était la véritable parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment? De quoi vit-il? Par, eh bien, si on accepte seulement une partie de la parole de Dieu, il vivra. Maintenant, ce n'est pas ce qu'il a dit. Avez-vous remarqué? C-H-A-Q-U, chaque parole. De quoi vit-il? Oh, il mange là? Non. Il meurt vite, ça c'est la chair. Eh bien, il fait partie de l'Église. Il croit tout sauf cela. Il est toujours mort. Vous saisissez? Il ne peut vivre que de toute parole qui sort de la bouche de... du souverain sacrificateur, de l'évêque, du cardinal, du pasteur, Dieu. Chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment savons-nous que c'est la parole de Dieu? Il le dit, ensuite il la prouve. Il prouve sa parole. Remarquez, alors, si tel est le cas, votre confession ne vous fera pas vivre. Votre adhésion à l'Église ne vous fera pas vivre. Remarquez, par sa parole seulement, pas une seule parole mal placée. Personne ne doit... Une seule parole a tué la race humaine. Dans la Bible, dans Apocalypse 22, une seule parole va encore tout tuer. Son nom sera retiré du livre de vie. Quiconque ajoutera une seule parole ou retranchera une seule parole. Pas une seule parole, pas... Non, je veux dire pas deux paroles, juste une parole. Pas une phrase, une parole, une parole. Oh, les amis! Comprenez-vous? Maintenant, je ne parle pas à cet auditoire précisément. Ceci est enregistré, voyez-vous, et ça va partout dans le monde. Comprenez-vous, gens du monde, qu'une seule parole, une seule parole, pas une phrase, pas un paragraphe, une seule parole, c'est tout ce qu'Ève n'a pas cru. Cela a amené, Dieu l'a prouvé. Mais si vous gardez chaque parole, vous vivrez. Ils ont douté d'une seule parole et cela a plongé la race humaine dans la mort. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement pour sa force physique, mais de chaque parole. chaque parole, telle qu'elle est écrite. La Bible dit, elle ne peut être un objet d'interprétation particulière. Nul homme n'a le droit nulle part, d'aucune façon, d'essayer d'interpréter la parole de Dieu. Dieu est son propre interprète. Quand il a promis, il a dit « que la lumière soit » et la lumière fut. Il a dit « une vierge concevra » et elle a conçu. Voyez, tout ce que Dieu dit, Dieu le prouve. Vous aurez beau penser que la résurrection physique est impossible et que ces gens d'autrefois ne sont plus que poussière de la terre, qu'ils ne sont même plus de la poussière maintenant, mais qu'ils sont redevenus des acides et des gaz dont leur corps était fait. Leur âme, elle, vit toujours. Dieu a dit, « Je le relèverai. » Job a dit, « Quand les vers de ma peau détruiraient ce corps, de ma chair, je verrai Dieu. » Voyez, quoi qu'il en soit, il faut garder chaque parole, et l'homme vivra de cette parole. Il a ressuscité un homme des morts, après que celui-ci a été mort pendant 4 jours, pour prouver qu'il était la résurrection et la vie. Après qu'un homme a été mort pendant 4 jours, et qu'il sentait déjà, son nez s'était déjà affaissé en 4 jours. C'est vrai, la première chose qui s'affaisse chez un être humain, c'est le nez. Il s'affaisse sur le corps mort, devient plat et s'affaisse. Ensuite, la peau, la vermine, vous, si on vous met dans un cercueil entièrement scellé, quel qu'il soit, mais pourtant, les vers de la peau ne viennent pas du sol, ils sont en vous. Avez-vous remarqué? Job a dit, quand les vers de ma peau me détruiraient, pas les vers de la terre, il n'y en aurait aucun. Les vers sont en vous, prêts à vous détruire. La mort travaille dans votre corps mortel. Mais quand vous avez Christ, alors la vie agit dans votre corps mortel pour vous ressusciter. Voyez, il a ressuscité un homme de la mort après que celui-ci a été mort pendant 4 jours. Il sent déjà pour prouver ce qu'il avait dit. Je suis la résurrection et la vie. Maintenant, qui pourrait dire cela à part Dieu? Voyez. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Vous croyez cela? Et il a ressuscité cet homme pour prouver que sa parole était vraie. C'est juste. Remarquez, il était la parole. Hébreux 4.12, si vous voulez le noter. Hébreux 4.12, il est dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Est-ce exact? Elle discerne. Pour prouver qu'il était la parole, qu'a-t-il fait? Pierre est venu vers lui. Il s'appelait Simon. Il est venu vers Jésus et il a dit, il était là. Et Jésus, aussitôt qu'il est venu vers lui, il a dit, tu es Simon et tu es le fils de Jonas. Sans instruction, aucun diplôme, il n'avait rien. Il n'était qu'un simple pêcheur, sans instruction. La Bible dit qu'il était un homme du peuple, sans instruction. Mais il est devenu l'évêque de l'église de Jérusalem. Pourquoi? Pourquoi? Jésus lui a dit qui il était, quel était son nom et quel était le nom de son père. Et il savait que c'était la parole. Car la Bible a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et ce devait être ce prophète. Car il n'y avait pas de prophète promis entre Malachie et le Messie. 400 ans sans prophète. Et voici qu'un homme se tenait là, confirmant ou prouvant sa parole à cet homme qui était prédestiné à la vie. Il a dit, « Tu es Simon, mais désormais, tu es le fils de Jonas. Désormais, on t'appellera Pierre. » Pensez-y, à qui l'a-t-il prouvé? Pourquoi n'a-t-il pas prouvé cette parole à... Pourquoi n'a-t-il pas prouvé cette parole à Caïphe? Il était Dieu. Il savait que Caïphe ne croirait jamais cela. Mais cet homme était prédestiné à la vie. Il l'a reconnu tout de suite. Se tenant au milieu des gens, une fois, là ou quelques jours plus tard, un autre homme est allé chercher un ami de l'autre côté de la montagne, à environ 25 kilomètres de l'endroit où il prêchait. Il l'a ramené le lendemain. Il était là, parmi les gens, et il s'est avancé à l'endroit où était Jésus. Jésus a regardé autour. Il était Dieu, voyez-vous. Il pouvait discerner, ce qui montrait, voyez, une preuve que la parole est vraie. Il a prouvé la parole. Maintenant, certains ont dit, vous savez, cet homme est la parole. Foutaise, ont dit ces sacrificateurs. Ce gars-là ne l'est pas. Non, ce n'est pas la parole. Il a dit, tu sais ce que dit l'Écriture, le Seigneur notre Dieu suscitera un prophète semblable à Moïse. Et c'est lui, écoute-le. Eh bien, il a dit, tu es, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Cet homme a dit, Rabbi, d'où me connais-tu? Il a dit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Il savait qu'il allait y croire. Il a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es la parole. Jésus a prouvé qu'il était la parole par la parole. Observez la petite femme au puits. Elle attendait un Messie. Elle n'avait rien à faire de leurs grandes assemblées et leurs dénominations, et ainsi de suite, qu'ils avaient en ce temps-là. Elle recherchait la parole. Alors, un homme, un jour, assis là, un homme ordinaire, assis contre le mur, a dit, « Femme, donne-moi à boire. » Elle s'est dit, « Bon, attends une minute, il essaie probablement de flirter avec moi. » Elle a dû penser cela dans son cœur, parce qu'elle avait la réputation d'être une femme de mauvaise vie. Elle a dit, « Eh bien, tu as... Pourquoi me poses-tu une question comme ça? Il y a de la ségrégation ici. Tu es juif. Nous sommes samaritains. Pas, ce n'est pas la coutume. Ce n'est pas bien que tu me demandes ça. » Voyez? Il a dit, « Femme, si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. » Elle a dit, « Toi, à boire, je ne vois même pas un seau ou une corde. Comment pourrais-tu me donner de l'eau de ce puits ?» Il a dit, « Je ne parlais pas de ce puits-ci. » Voyez, au bout d'un moment, elle s'est dit, « C'est un homme étrange. » Alors, elle a commencé à faire remonter le seau d'eau. Il a dit, « Eh bien, l'eau que je donne, ce sont des sources d'eau, des geysers, qui jaillissent jusque dans la vie éternelle et dans ton âme. » Eh bien, dit-elle, « Maintenant, attends une minute. Je comprends que tu es juif. » Elle a dit, « Maintenant, vous, les juifs, a-t-elle dit, tu veux dire que tu es plus grand que notre père Jacob qui a creusé ce puits? Il était le Dieu de Jacob. » Voyez? Elle a dit, « Tu veux dire que tu es plus grand que Jacob qui a creusé ce puits? Un homme ordinaire, voyez, d'apparence. C'est tout ce que vous pouviez voir, un homme ordinaire. » Elle a dit, « Tu dis que tu es plus grand que notre père Jacob qui a creusé le puits duquel lui-même a bu et son bétail? Eh bien, nous sommes simplement bénis de boire à ce puits que ce prophète a creusé. » Il a dit, « Oui. Mm-hmm. » A-t-il dit, « Et nous adorons sur cette montagne, et vous dites à Jérusalem. » Il a dit, « Le salut vient des Juifs, femme. Nous savons de quoi nous parlons. » Il a dit, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Un Juif est censé connaître la parole, voyez, ce qui était censé être. Mais voyez, il observait maintenant. Pourquoi? Il allait, qu'allait-il faire? Prouver sa parole, voyez? Eh bien, dit-elle, il a dit, « Au fait, va chercher ton mari et viens ici. » Et elle a dit, « Je n'ai pas de mari. » Eh bien, a-t-il dit, « Tu as dit la vérité, vois-tu, parce que tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Voyez? Observez, quelque chose s'est produit, voyez? Quelque chose a pris vie. Maintenant, si cela n'avait pas été là pour commencer, si elle n'avait pas eu de représentation par prédestination, ça ne se serait jamais implanté. Il y avait là des sacrificateurs qui disaient, « Cet homme est Bézébul, voyez? » Pas de représentation. La vie éternelle, vous avez toujours existé. Voyez, vous avez la vie éternelle. Il n'y en a qu'une seule forme. C'est Dieu. Vous étiez son attribut. Il a pensé à vous et vous connaissez avant la fondation du monde, dans sa pensée. Voyez, elle s'est examinée. Elle a vu dans quel état de péché elle se trouvait. Mais voyez, il ne pouvait pas atteindre ce sacrificateur, parce que le sacrificateur était un érudit, un théologien de la parole, mais sans représentation dans le ciel. Voyez, il n'était pas du tout dans la pensée de Dieu, mais cette femme l'était. Elle a dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » C'est tout ce qu'il voulait qu'elle voie. Voyez, elle a dit, « Nous croyons que tu es, je crois que tu es prophète. » Or, nous savons, nous ne comprenons pas ce qu'il en est des prophètes maintenant, parce que le temps est très avancé. Nous savons qu'un Messie doit venir. Et quand ce Messie viendra, il sera la parole. Tu vois, il discernera les secrets du cœur. Il fera la même chose que ce que tu as fait là. Elle a dit, « Tu dois être l'un de ces prophètes, son précurseur, ou quelque chose du genre. » Il a dit, « Je le suis. » Que faisait-il? Il prouvait sa parole, prouvait sa position, prouvait ce qu'il était. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et Dieu est la parole. Très bien. Il a calmé les vents et les vagues pour prouver la prophétie d'Ésaïe. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Voyez, il a aussi multiplié le pain et les poissons, ce fils né d'une vierge. Qu'en était-il? C'était pour prouver la parole. Toute écriture doit s'accomplir. Il a prouvé la parole en disant qu'il était Jéhovah manifesté. Il était le commencement de la création de Dieu. Dieu dans la création, Dieu dans une petite partie de la création, ici, dans laquelle Dieu vivait lui-même. Il était le commencement de cette création de Dieu. De lui ont été engendrés beaucoup de fils. Notez qu'il a aussi multiplié les poissons. Il est la parole et la preuve de la parole. Maintenant, écoutez bien, alors que nous arrivons à la fin. Ce jour-là, ce que je viens de lire il y a quelques minutes, maintenant, quand il est allé à la maison de Jaïrus, il est entré quand il est arrivé. Maintenant, rappelez-vous, Jaïrus était un sacrificateur, un croyant frontalier. Il voulait croire Jésus, mais il n'aimait pas l'idée d'abandonner son église. Parce qu'ils avaient dit, toute personne qui croit en lui sera expulsée de l'église. Bon, écoutez attentivement ici, en terminant. Donnez-moi toute votre attention. Observez ceci. Je crois que Jésus savait cela quand il a traversé la mer, car il savait toutes choses. Et quand il a traversé la mer, il s'est arrêté là. Et voici que ce petit sacrificateur est arrivé. Sa fille était vraiment malade. Les médecins l'avaient abandonnée. Il a dit, elle se meurt. Maintenant, le temps était venu d'agir. Peut-être que c'est le cas pour vous ce matin, que le temps est venu pour vous d'agir. Voyez, peut-être que vous êtes vraiment malade. Peut-être que vous êtes convaincu que vous avez tort. C'est possible. Dieu force une décision. Le temps vient d'agir. Maintenant, soyez attentifs. Voici, il arrive, sans se soucier de ce que les autres allaient dire. À la vue des gens, il s'est approché et est tombé aux pieds de Jésus. Quel effort pour un érudit d'aller vers quelqu'un dont il ne nous ait fait mention nulle part qu'il ait jamais fréquenté l'école. Comment un homme peut-il venir, étant censé être versé en théologie, venir voir un homme qui était censé être un réprouvé? Un homme sauvage, un fou, ayant perdu l'esprit, n'ayant même plus son bon sens. Pardonnez-moi l'expression, mais il n'est qu'un détraqué de ce jour. Tout le monde pensait que c'est ce qu'il était. Comme on le dirait aujourd'hui dans l'expression de la rue, un cinglé. Le mot anglais « nat » signifie à la fois « écrou » et au figuré « cinglé ». Comme je l'ai prêché l'autre jour sur l'écrou et le boulon, vous savez. Voyez, c'est ce qu'il était aux yeux du public, juste une personne ordinaire. Il disait, « Eh bien, tu as perdu l'esprit, tu es détraqué, tu es un fou. » Maintenant, voici un homme qui avait tous les diplômes, qui venait vers celui qui était censé avoir perdu l'esprit. Il était forcé de le faire. Observez-la maintenant, ça va piquer un peu, mais ce sera bon pour vous. Voyez, parfois un choc, ça vous réveille. Remarquez, il est venu et s'est approché de cette petite fille morte, qui était probablement morte depuis plusieurs heures. Et on l'avait étendue là, on avait mis sur elle le liquide d'embaumement et on l'avait mise sur le divan. C'est comme ça qu'il faisait à cette époque-là. On les transportait et on les mettait dans un trou sur une planche. Elle était étendue sur le divan, des fleurs autour d'elle. Et oh, ce bon petit pasteur! Le petit Jaïrus, j'imagine que c'était un bon petit pasteur. Tout le monde l'aimait. Car, voyez-vous, je peux le prouver, parce que dans son cœur, il croyait Jésus. Mais il n'arrivait simplement pas à prendre la décision, parce qu'il ne recevrait plus de chèques tous les samedis ou tous les lundis matins, voyez. Il n'arrivait simplement pas à prendre la décision. Et autre chose, les gens, le grand prestige dont il jouissait parmi les gens, il dirait, vous savez quoi, Jaïrus est devenu fanatique. Voyez, il est allé là, avec ce faux prophète. C'est exactement ce qu'il a fait. Où il y a tous ces prétendus signes, ces choses. Ce prophète de Galilée, vous savez, Jésus de Nazareth. Nous ne croyons pas cela maintenant. Cela semble sacrilège. Mais c'était comme ça à l'époque. Voyez, et un jour, ce qui se passe maintenant, c'est ce qui se passera alors. Voyez, la même chose. Bon, remarquez, il est allé là-bas et il n'arrivait simplement pas à le faire. Mais le moment était venu où il a été forcé de le faire. Il devait le faire. Et là, il est allé jusqu'à Jésus, devant tout cela, et il est tombé à ses pieds et a dit, « Maître, maître, vous savez ce que c'est ? L'autorité, la propriété. C'est juste. Vous voyez, beaucoup de gens veulent que Jésus soit leur sauveur, mais pas leur Seigneur. Vous voyez, Seigneur, c'est chef. Oui, vous dites, Jésus, sauve-moi et laisse-moi me tenir ici, et ce sera bien. Je ferai mes propres affaires. Maintenant, ne te mêle pas de mes affaires. Mais tu peux être mon sauveur, mais pas mon Seigneur. Il veut être Seigneur, voyez-vous, et c'est alors qu'il est votre sauveur. Mais ici, il a dit, Maître, Sauveur. Voyez, ma petite fille, ma fille unique, elle a 12 ans. Les médecins l'ont abandonnée. Or, ce sacrificateur a sans doute dit ceci. Tu sais, ils ont tous dit que tu es un fanatique. Mais tu sais, Maître, je te crois. Je crois, je sais que tu peux discerner. Et la seule chose que je veux que tu dises, c'est, viens simplement poser tes mains sur elle. Puis, dis-moi quoi faire, je le ferai. Oh, maintenant, vous êtes sur la bonne voie. Il a dit, je vais y aller. Et il s'est mis en route. Après être parti pendant plusieurs heures, voici un homme qui accourait avec de la cendre sur la tête, comme c'était la coutume alors. Il a dit, n'importune plus cet homme, ta fille est morte, elle est déjà morte, ils l'ont déjà préparée et exposée. Oh, son petit cœur, Jésus a tourné le regard vers lui. Celui-ci a dit, oh. Il a dit, ne te l'ai-je pas dit? En effet, ce qu'il a fait là, il l'avait promis à Jaïrus. Maintenant, il devait le prouver. Amen. Je te l'ai dit. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Donc, il savait ce qu'il faisait. Il a dit qu'il ne faisait rien qui ne lui ait d'abord été montré par le Père. Jean 5, 19. Je ne fais que ce que le Père me montre. Alors, il lui avait montré ce qui allait arriver. Alors, quand il est entré dans la maison et s'est tenu à côté de cette petite forme raide et froide étendue là, elle avait été malade pendant des semaines. Et son petit corps pâle, elle n'avait rien mangé, elle avait été atteinte de fièvre et ainsi de suite, et elle était morte. On avait répandu sur elle des aromates, d'embaumement et ces choses-là. Et étendue là, vous savez, sur le divan et tout, on se préparait à l'envelopper et à la mettre dans une tombe. Et on avait fait la petite cérémonie où on mettait des fleurs autour d'elle. Jésus est arrivé et tout le monde, « Oh, Jaïrus, ta petite fille est morte !»« Oh, Père Jaïrus, oh, ça nous fait tellement de peine pour toi !» Et tout. Il a dit, « Oh, restez tranquille, vous faites trop de bruit !» Il a dit, « Quel est tout ce tumulte que vous faites ici ?» Voyez-vous, ce tumulte, vous hurlez et vous poussez des cris. « Cette fille n'est pas morte, elle dort !» Alors, quand ils l'ont entendu dire qu'elle n'était pas morte, on a dit, ils se moquaient de lui. Autrement dit, ils l'ont hué. « Ouh, voyons-toi, faux prophète! Voyons-toi, espèce d'imposteur! Cette fille est morte! Le médecin a dit qu'elle l'était! Nous l'avons embaumée, nous l'avons exposée, elle était tendue là, elle est morte! » Ils ont dit, « Oh, Jaïrus, tu parlais de lui, maintenant, qu'en est-il? » Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, « Vous tous, sortez d'ici. » Au milieu d'une telle incrédulité, ça ne peut pas marcher. Maintenant, qu'avait-il dit? Il a dit, « Jaïrus, si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Là, ça, c'est sa parole. Il doit prouver cela. Très bien. Puis, quand il est entré dans la maison où ils pleuraient tous, il a dit, « Elle dort. » C'était contraire à la science. C'était contraire au bon sens. Elle était morte, embaumée. Dès qu'ils mouraient, on les embaumait tout de suite. Dès que la vie était sortie d'eux, on déversait ces aromates et ces choses-là sur eux. Puis, on les enveloppait et on les préparait pour les emmener. Voyez, on les enterrait. Eh bien, parfois, on n'avertissait même pas les gens. Vous savez, Ananias et Saphira, on avait déjà enterré Ananias quand Saphira est entré, voyez-vous. On l'avait déjà emmené et enterré, voyez-vous. Aussitôt qu'ils mouraient, on déversait ces choses sur eux, on les emmenait et on les enterrait, voyez. Alors, on l'avait déjà préparée pour la mettre dans la tombe, mais on voulait attendre que le papa arrive et la voie avant de l'enterrer. Et lorsqu'il est arrivé, alors qu'elle était dans cet état, il a dit, « Elle fait juste un somme. » Eh bien, ils ont dit, « Allons donc, ce gars-là n'a plus toute sa tête. » Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait déjà dit qu'elle dormait. Il devait prouver sa parole. Il ne pouvait pas le faire devant tous ces gens. Alors il a dit, « Faites sortir tout le monde. » Et je peux le voir tourner le regard vers Jaïrus et dire, « Tu crois toujours ? » ?»« Oui, Seigneur. Toi et ta femme, venez par ici. Pierre, Jacques et Jean, venez avec moi. » Ils se sont avancés et il a prononcé ces mots, « Talita kumi !» ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi. » Et il a prouvé sa parole. Elle dormait, c'est tout, pas vrai ? Sa parole était vraie, il l'a prouvée là. Malgré leur incrédulité, il a quand même prouvé que sa parole était vraie. Il l'a réveillée, parce qu'il avait dit qu'elle dormait. Elle dormait. Il fera la même chose un jour, pour chaque vrai croyant, car sa parole l'a promis. Ceux qui sont en Christ, Dieu les ramènera avec lui. Voyez, ceux qui sont en Christ. Qu'est-ce que ces petites filles juives ont fait? J'allais laisser ce passage de l'Écriture de côté, mais je vais l'utiliser. Je sais qu'il est un peu tard, et nous aurons la ligne de prière dans quelques minutes. Je ne vous reverrai peut-être pas avant une semaine, mais attendons encore un peu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, voyez? Remarquez, laissez-moi simplement ajouter ceci maintenant pour vous montrer. Pourquoi Jésus a-t-il réveillé cette jeune fille israélite? Parce qu'elle savait qu'elle n'était pas morte. La prédestination. Tout comme il l'a fait pour Lazare. Voyez, peut-être qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui étaient mortes ce même jour. Il ne leur a jamais adressé une parole. Il savait que celle-ci avait la vie éternelle. Voyez, il n'a pas réveillé les autres. Observez, quand il est sorti de Jéricho, ils ont dit, « Voici ce gars-là !» Ils ont sans doute dit, « Tu réveilles les morts? Tu me dis que tu peux ressusciter les morts? Nous en avons un cimetière rempli ici. Viens les réveiller !» Voyez, il ne leur a même pas prêté attention. Voyez, il ne l'a jamais fait, car il savait qu'il était la parole. Remarquez, elle était seulement endormie. Il savait que le Père viendrait. Or, cette petite fille, voyez, il savait que cette jeune fille juive était seulement endormie. Voyez, les justes ne meurent pas. Jésus est venu pour racheter les justes. Et racheter signifie être ramené de là où vous étiez avant. Voyez, il ne pouvait pas racheter les incroyants, peu importe leur niveau d'instruction et le nombre de doctorats qu'ils possédaient. Il ne pouvait pas les racheter car ils n'étaient pas rachetables. Ils devaient aller vers leur destination. Mais dans sa prescience, il savait que Lazare allait sortir de la tombe. Il savait aussi que cette petite fille avait la vie éternelle. Donc, elle n'était pas morte. Elle était seulement endormie. Et quand notre travail est terminé sur la terre, si nous ne vivons pas jusqu'à sa venue, nous ne pouvons pas mourir. Nous ne faisons que dormir. Il l'a prouvé ici, il va le prouver de nouveau. Quand les vers de ma peau détruiraient ce corps, je me réveillerai quand même à sa ressemblance. Il prouve toutes ses paroles. Toutes ses paroles. Réfléchissez à ça. Toutes ses paroles. Et vous étiez sa parole. Il était la parole et vous faisiez partie de sa parole. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes envoyé ici, pour confirmer votre place dans la vie. Je ne crois pas que vous avez saisi ça. Voyez, il est la parole. Maintenant, vous le saisissez? Il était dans les pieds, en Luther, dans les cuisses, en Wesley, dans les épaules, à la Pentecôte. Vous voyez ce que je veux dire? Il est la tête. Il y a une partie qui joint cela ensemble, en cette heure où nous vivons. Pas la partie des pieds, pas la partie des cuisses, pas la partie des épaules, mais la partie du cou. Pas vrai? Cela se joint à la tête. C'est là la partie du corps. Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts en Jésus. La trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pas vrai? Voyez, vous devenez une partie de cette parole. Vous devenez une partie de lui et vous prenez son nom pour reconnaître cela. Voyez, vous êtes placé là-dedans, baptisé en son nom, dans son corps. Dans un seul esprit, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Là-dedans, exactement à la même place. Il ne change jamais sa façon de faire. Si, combien croient que l'Église primitive est en lui? Voyons voir. Combien le croient? Comment ont-ils été baptisés? Très bien, voyez. Il est le Dieu immuable. Nous l'avons prouvé. Nous pourrions rester ici jusqu'à minuit ce soir à le prouver et continuer encore et encore. Voyez, immuable. Voyez, vous êtes en lui et une partie de lui, car vous étiez une partie de sa pensée. Avant la fondation du monde, il vous a appelé. La Bible dit que la bête sur la terre, c'est l'antichrist dénominationnel qui vient sur la terre, formant la bête à Rome, ce qui était la première dénomination. Et ce Conseil mondial des églises forme une image à la bête, exactement ce que nous venons de mettre dans le livre là, l'autre jour. Remarquez, il forme cela, voyez, l'Antichrist. Et la Bible dit, tous ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Quand, au réveil, immolé avant la fondation du monde, votre nom a été inscrit là. Cet Antichrist vous séduira. Matthieu 24, 24 dit ceci, l'Antichrist serait si proche de la véritable chose dans les derniers jours qu'il séduirait même les élus ou les prédestinés. C'est la même chose. L'élection et la prédestination, c'est la même chose. Dieu vous a élu ou prédestiné avant la fondation du monde. Séduirait tous ceux dont le nom n'a pas été prédestiné dans le livre de vie. Daniel a parlé de cela, de ce que seraient les sages en ce jour-là et ceux qui n'étaient pas sages, et ainsi de suite. Très bien, tant de choses, mais je sors continuellement aussi, si loin de mon sujet. L'horloge avance trop vite pour moi. Regardez maintenant, observez, et ensuite remarquez, maintenant, observez ce qui s'est passé ici. Tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Tous ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Votre voyage est terminé, votre mission est accomplie. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour vous. Les œuvres, c'est ce que vous faites par reconnaissance. Il a prouvé de la même manière qu'il connaissait toutes choses. Ce fils né d'une vierge. Il savait où se trouvait le poisson dans l'eau, là où Pierre et les autres avaient pêché sans rien attraper. Cela a prouvé sa parole, pas vrai? Il connaissait toutes choses. Et quand il était prêt à payer ses impôts, il a été démontré qu'il possédait toutes choses. Il savait où se trouvait un poisson qui avait dans sa bouche la pièce de monnaie qui suffisait pour payer le... Quelqu'un l'avait laissé tomber là-bas et le poisson l'avait simplement ramassé. Et il a dit, « Pierre, descends et lance ta ligne, vois-tu, attrape ce poisson et fais sortir la pièce de monnaie de sa bouche. Puis, vas-y et contente-les, paye les impôts. » Oh oui, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais il avait la parole. Il était la parole et a prouvé cela. Il prouve toujours sa parole. Il fera la même chose maintenant. Il le prouve de la même manière dans chaque génération. Après le troisième jour, après sa mort, l'ensevelissement, le troisième jour, il est ressuscité pour prouver sa parole. Car le prophète a dit, « Je ne permettrai pas que mon saint voie la corruption. Je ne laisserai pas non plus son âme dans le séjour des morts. » Le troisième jour, avant que la corruption puisse s'installer en 72 heures. Voyez, ça n'a pas duré trois jours complets, parce que la corruption s'installe en 72 heures. Voyez, alors il n'est pas resté là pendant tout ce temps. Parce que le prophète a dit, voyez, le prophète a dit, « Je ne permettrai pas que mon saint voie la corruption. » Il a prouvé sa parole. Il a guéri les malades, les boiteux, pour prouver sa parole, qu'Ésaïe et le reste des prophètes ont annoncé. Il a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte pour prouver sa parole. Si vous voulez avoir quelques-uns de ces passages de l'Écriture pour appuyer cela, Joël 2, 28. Il a dit, « Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair et sur mes serviteurs et mes servantes. Je répandrai de mon esprit. » Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, et ainsi de suite. Il l'a prouvé en répondant. Aussi, il avait dit, avant que cela arrive, dans Luc 24, 49, si vous voulez le noter. Il a dit, « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Voilà, il l'a fait. Il a envoyé l'Esprit pour continuer de prouver sa parole. Mais observez ce qu'il a dit. L'a-t-il fait? Très bien. Marc 16, il a dit, « Allez par tout le monde, prêchez l'Évangile à toute la création. » Jusqu'où? Dans le monde entier. À qui? Toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il a dit dans Marc 4, il a dit dans Jean 14, 12, il a aussi dit, celui qui croit en moi, pas qui fait semblant de croire, mais celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il fallait avoir le même esprit qui était en lui pour faire les mêmes œuvres. Pourquoi? L'Esprit venait pour manifester la parole promise dans le futur. Vous voyez, il avait fait des préparatifs, car il savait que ces choses arriveraient. Maintenant, après 1900 ans, les âges de l'Église étant passés, toutes les choses qu'il a prophétisées pour Luther, Wesley, nous venons de voir ça et nous l'avons vu être dessiné. Et la lune qui diminue, et cela a été dessiné. Le Seigneur a dessiné ça sur le tableau, ici pour nous, a montré cela, et il est descendu lui-même et a confirmé que c'était authentique. Après 1900 ans, et nous sommes à la fin de l'âge de l'Église de Laodicée. Il a promis dans Luc 17, 30, que ce même Fils de l'homme, il l'a promis, serait révélé au jour qui serait comme ceux de Sodome sur la terre. L'a-t-il fait? Est-ce que ça doit s'accomplir? C'est impossible. Maintenant, souvenez-vous, il est venu en trois noms. Le Fils de l'homme, un prophète, le Fils de Dieu, l'Esprit, le Fils de David pour le millénium. Mais dans l'intervalle, cette conjonction, là, selon ses propres paroles, au jour où le Fils de l'homme sera révélé, se révélera lui-même en tant que, quoi? Pas Fils de Dieu, Fils de l'homme. Il se révélera d'une manière différente. Maintenant, qu'est-ce que cela accomplit? Malachie 4, tout à fait. Voyez, le Fils de l'homme va se révéler, pas dans de grandes dénominations et tout, comme nous l'avons vu à travers les âges. Mais il se manifesterait en tant que Fils de l'homme de nouveau, pour manifester Malachie 4. Et en ce jour-là, je vous enverrai Élie, le prophète, et il ramènera le cœur des enfants à la foi des pères apostoliques, loin de tout ce système des dénominations, pour revenir de nouveau à la parole originelle, afin de faire sortir cet arbre épouse du dernier jour, ce qu'il a promis. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Pas pendant le jour brumeux, il y aura de la lumière. Ce sera un jour qu'on ne peut appeler ni jour ni nuit. Voyez, ça forme le corps. Mais le même chef qui était ici à l'est est de nouveau ici à l'ouest. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Oh là là, j'ai envie de chanter un chant. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, là, tu le trouveras. C'est dans cette voie de l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui, ensevelie dans son précieux nom. Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit viendra sûrement en vous. Les lumières du soir sont venues, c'est connu et c'est un fait que Dieu et Christ sont un. Et le Fils de l'homme se révèle dans la même puissance dont il était revêtu. Pas à travers l'âge de l'Église, par la justification, la sanctification, toutes ces choses ici, mais le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? La parole. La parole est plus efficace, plus puissante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées du cœur. Que devait-il faire? Il devait prouver cette parole. Qu'allait-il faire? Remarquez ça, quand nous voyons cela arriver, observez-la sous la même forme qu'il était ici au commencement, la colonne de feu. Oh, prouvons qu'il est Hébreux 13, 8, où il est dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce que c'était? Jésus-Christ, le même hier. C'était Christ qui était dans le désert avec Moïse. Combien savent que la Bible dit cela? Hier, c'était Christ quand Paul parlait ici aujourd'hui. Vous croyez ça? Dans le Nouveau Testament. Puis, le Fils de l'homme, le même Christ, au dernier jour. Voyez? Très bien. Remarquez aussi Jean 14, 12. Il a dit, « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. » Tous ces autres passages des Écritures, que fait-il? Il est ici maintenant, prouvant, pas l'âge de Luther, pas l'âge de Wesley, pas l'âge pentecôtiste, pas l'âge baptiste, pas l'âge presbytérien. Nous avons étudié cela. Elle l'avons prouvé par les faits historiques dans la Bible. Mais quoi? L'âge où le Fils de l'homme est révélé pour amener ces choses afin d'accomplir la parole quand tout doit être accompli. Voyez, nous le voyons et c'est vrai. Et réfléchissez-y par les mêmes méthodes qu'il a utilisées en premier lieu. Ce n'est pas seulement confirmé parmi nous, mais c'est confirmé par la science. Ils doivent admettre que cela est vrai. George G. Lacey, le chef du service des empreintes digitales et des documents du FBI, a déclaré « La lumière a frappé la lentille ». J'ai moi-même dit que c'était de la psychologie, mais a-t-il dit « Monsieur Branham, cet appareil photo ne captera pas la psychologie ». C'est bien là. Qu'est-ce que c'est? Un témoignage qu'il y a bien des années, lorsque cette colonne de feu se tenait dans ce buisson comme un tourbillon, il a parlé et a dit « Ne fume jamais, ne bois jamais, car tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. » Les gens ont dit « Ce garçon a perdu la raison. Ma mère voulait appeler un médecin. J'étais nerveux. » Mais qu'est-ce que c'était? Il est descendu juste ici, au bord de cette rivière, la rivière Ohio, et a dit « Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer un peuple à la manifestation de la parole, ton message le fera aussi. » Le docteur Davis et les autres disaient de moi que j'avais perdu ma raison. Ils voulaient m'expulser de l'église parce que je n'étais pas d'accord avec lui sur les femmes prédicateurs et toutes ces choses contraires aux Écritures. Il a dit, « Et tu dis que tu vas prêcher et amener un réveil qui atteindra le monde entier ?» J'ai dit, « Ce n'est pas moi, mais c'est lui qui l'a dit. » Il a dit, « Billy, tu as fait un cauchemar. » J'ai dit, « Je vais remettre ma carte immédiatement. Je ne suis plus des vôtres. » Lui, il l'a dit, j'y crois, et il l'a prouvé. C'est ce qui est bien. Il l'a prouvé. Il a prouvé sa parole par la parole, car il est la parole. Voyez? Et la parole fait quoi? Elle connaît le secret du cœur. Pas vrai? Très bien. C'est prouvé dans Hébreux 13, 8. Et il aura une église épouse prête dans les derniers jours. Comment va-t-il le faire, frère Branham? Je ne sais pas, mais il a dit qu'il le ferait. Il va le prouver. Une appelée à sortir de toutes les autres, c'est vrai. L'oiseau tacheté, tacheté de son sang, voyez? Appelée à sortir, tout le reste du troupeau est contre elle. Elle est méprisée et rejetée. Mais l'oiseau tacheté, maintenant, peu m'importe combien l'auteur a voulu être en désaccord avec cela, il se trompait. Souvenez-vous, que faisait-on à l'oiseau? Qu'était l'oiseau tacheté? Ils en prenaient deux. L'un était tué, le compagnon, son sang était versé sur l'autre oiseau, et c'était pour la purification de la lèpre, les gouttes de sang, et on criait « Saint, 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 et l'Éternel ». Et c'était notre compagnon, Jésus-Christ, qui était tué, et son sang était sur nous, criant « Saint, 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 et l'Éternel ». Tous les autres oiseaux, je suis heureux que mon nom soit sur son livre, pas ici sur terre, mais là-haut, pas sur une peau de chèvre, mais sur la peau de l'agneau, c'est vrai. Il y aura une résurrection des morts. Il va confirmer cela. C'est vrai, il va le prouver. Il y aura un enlèvement de l'Église. Comment cela se passera-t-il? Je ne sais pas, mais il va le prouver. Sa parole est vraie. Il y aura un millénium. Il va le prouver. C'est sa parole. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il va le prouver parce que sa parole le dit. Et seuls les justes seront là. Il va le prouver, ça aussi. C'est vrai. Seuls ceux qui sont devenus une partie de cette parole. Voyez, ce sera leur place et leur position dans cette parole pour leur âge. Ce seront les seuls à être là. Parce que c'est exactement ça. Il est la parole. Et une femme, qu'est-ce que c'est? L'image d'un homme. Et l'Église, qu'est-ce? Qu'est-ce que c'est? L'image de la parole. Voyez, c'est exact. Voyez, donc ce sera là. C'est exact. Seuls les vrais croyants de sa parole savent ceci et peuvent y croire. Et Dieu les aide à le prouver. C'est exact. Que c'est la vérité. Le croyez-vous maintenant? Le croyez-vous? Si oui, tendez la main par la foi et touchez son vêtement, car il passe par ici. Il va prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu. Et il est un souverain sacrificateur, selon Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 4 et verset 15. Il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Croyez-vous cela? Tendez la main et touchez le Seigneur. Il est toujours présent. « Voici, je suis avec vous tous les jours. » Regardez tout au long des âges. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Maintenant, si vous faites partie d'une église qui ne croit pas qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, le même à tous égards, éloignez-vous-en. Examiné. Maintenant, nous disons qu'il est ressuscité des morts. Je ne l'ai pas dit. La parole ici le dit. Ils ont dit, il est ressuscité des morts. Il dit qu'il est le même hier, éternellement. Vous croyez ça? Il a promis que ces choses arriveraient au dernier jour, que le même Fils de l'homme serait manifesté. Maintenant, souvenez-vous, ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham là-bas, qui pouvait discerner les pensées de l'esprit de Sarah derrière lui. Ce n'était pas Jésus, il n'était pas encore né. Mais c'était un homme dans une chair humaine qu'Abraham a appelé Elohim, le grand Tout-Puissant, montrant, et Jésus a dit, ce qui arriva au jour de Sodome. Maintenant, soyez bien attentifs. Au jour de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme sera révélé, non plus en tant qu'Église, voyez, ce n'est plus ça, l'épouse est appelée, voyez. En ce jour-là, le Fils de l'homme sera révélé. Pourquoi? Pour unir l'Église à la tête, l'union, le mariage de l'épouse. L'appel de l'époux viendra par ceci, quand le Fils de l'homme descendra et viendra dans la chair humaine pour unir les deux. L'Église doit être la parole. Il est la parole et les deux s'unissent. Et pour ce faire, il faudra la manifestation de la révélation du Fils de l'homme. Pas un homme du clergé. Je ne sais pas. Voyez-vous ce que je veux dire? Voyez, c'est le Fils de l'homme, Jésus-Christ, qui descendra parmi nous de la chair humaine et qui rendra sa parole si réelle qu'elle unira l'Église et lui pour être un. L'épouse, et ensuite, elle ira à la maison, au souper des noces. Amen. Elle est déjà unie. Voyez, nous allons au souper des noces, pas au mariage. Rassasiez votre chair, vous-même, de toute chair des hommes puissants, parce que les noces de l'agneau sont venues. Mais l'enlèvement, c'est aller au souper des noces. Lorsque la parole s'unit ici à la personne, et les deux deviennent un, alors qu'est-ce que ça produit là? Cela manifeste de nouveau le Fils de l'homme, pas les théologiens de l'Église, le Fils de l'homme. La parole et l'Église deviennent un. Tout ce que le Fils de l'homme a fait, il était la parole, l'Église fait la même chose. Comment a-t-il démontré ce qu'il est tout au long des âges? Par les prophètes qui pouvaient prononcer la parole et connaître leurs pensées. C'est comme ça qu'on le reconnaissait, par cela. La promesse pour l'âge de l'Église, il arrivera que ce ne sera ni nuit ni jour, mais au temps du soir, quand le Fils de l'homme serait révélé. Ça reviendrait. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Voyez, qu'est-ce qu'il fait? Il prouve sa parole. Maintenant, regardez en arrière. Est-il venu comme vierge? Est-il venu comme il l'avait dit? Par la vierge plutôt? Est-il venu exactement comme il l'avait dit? Observez aujourd'hui, il a prouvé sa parole. Malgré tous les athées, les infidèles, l'indifférence, il est quand même venu et a prouvé sa parole. Nous voici, ayant traversé cet âge de toutes les églises et ces choses. Nous nous sommes égarés, comme ils l'ont fait depuis Malachie jusqu'à la venue de Christ. Tous les prophètes et ces choses avaient cessé, et ils avaient établi des dignitaires, et ainsi de suite. Mais exactement, regardez quel genre de personnage il envoyait. Exactement l'Élie, quelqu'un qui détestait les femmes immorales, qui mettait beaucoup de fard, de poudre et de maquillage, et toutes ces choses-là. Et les hommes du clergé, il les a tués à droite et à gauche. Sortis du désert, il ne mettait de gants blancs avec aucun d'eux. Il disait, « Le Messie approche !» Je le reconnaîtrai quand il viendra. Je vais le présenter. Amen. Ne prétendez pas dire en vous-même que vous faites partie de ceci ou cela, tout comme Élie l'a fait. Et dans les derniers jours, il arrivera, avant la venue du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible, que je vous enverrai, avant la venue du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible, je vous enverrai Élie le prophète. Et il ramènera la foi des enfants à leur père. Et observez, la foi des pères à leurs enfants, les Juifs, voyez, leurs promesses de l'Écriture, les gens des nations, et d'où ils sont tombés. Regardez ces deux choses, c'est tout à fait parfait, exactement. Et nous le voyons ici, Dieu prouvant sa parole. Courbons la tête un instant. Dieu bien-aimé, qui a ressuscité notre Seigneur Jésus d'entre les morts pour prouver ta parole, et il est vivant aujourd'hui. Cela prouve ta parole. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Cela prouve sa parole. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si ce n'était pas pour toujours, vous pourriez peut-être vous achoper à certaines de ces choses. Je ne me suis pas arrêté pour l'expliquer, Seigneur. Mais pour toujours, ils le savent, c'est juste un espace de temps. Et là, après cet âge-ci, il n'y aura plus jamais de « pour toujours ». Ce sera l'éternité. Donc, il était le même Dieu qui était en Moïse et dans les prophètes. Puis, il est venu après un espace de temps et manié et lui-même pour se manifester comme le Dieu prophète. Et ensuite, nous avons eu un espace de temps, et il revient, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous pensons à ceci, Salomon, pendant ce grand millénium des Juifs, où aucune nation n'osait les toucher, et où ce grand don de Dieu était dans le prophète, au point qu'il a fait connaître à la reine tous les secrets qu'elle avait dans son cœur. Rien n'était caché. Ce grand âge, qui montrait sous forme de type qu'un grand âge allait venir. Et maintenant, Père, c'était toi, pas Salomon, c'était toi en Jésus, car il a dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il était le commencement de la création, son corps était la création rachetée. Et maintenant, au cours des âges, l'Église a perdu son premier amour. Et maintenant, dans les derniers jours, tu as promis d'appeler une petite minorité, le petit troupeau dans les derniers jours. Père, nos cœurs bondissent et mon cœur bat fort. Quand je pense à cela, sachant que tes paroles sont vraies, aucune d'entre elles ne peut faillir. Permets que ces gens comprennent cela aujourd'hui et que le pécheur te cherche en cette heure-ci, avant que les portes se ferment et qu'il n'y ait plus de temps. Permet que l'épouse, alors qu'elle commence à sortir du pas à cause de ceci et de cela, reprenne le pas, comme la vision l'a montré il y a quelques semaines. Je te prie, Père, de maintenant bénir et guérir les malades. Voici des tissus posés ici, des mouchoirs provenant de différents endroits. Et maintenant, dans les Écritures, il est dit, il prenait des tissus et des linges, des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. Il les appliquait sur les malades et Dieu les guérissait. Or, nous savons que nous ne sommes pas Saint Paul, mais nous savons que ce n'était pas Saint Paul. C'était la foi que les gens avaient en lui en tant que ton serviteur. Seigneur, ces gens ne conduiraient pas ces centaines de kilomètres s'ils ne croyaient pas. Récompense leur foi, Seigneur. Alors que non pas oint les mouchoirs, Paul ne les a jamais oints. Les mouchoirs avaient touché son corps. Alors que je tiens ces mouchoirs, Seigneur, non pas que mon corps, parce qu'il ne vaut rien, mais il est ta propriété rachetée. Alors je prie, Dieu, que tu honores leur foi. Puisse chacun d'eux être guéri pour la cause du royaume de Dieu. Maintenant, Seigneur, un long message, sans vouloir qu'il dure plus de quelques minutes, mais cela a pris 2 heures ou plus. Maintenant, que les malades soient guéris, Seigneur, que les gens voient que tu es ici, que je n'ai pas dit ça de moi-même. C'est toi, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Amen. Bon, juste environ 10 minutes. Je ne sais pas, est-ce que tu en as distribué ici? Qu'est-ce que c'était? Billy a dit qu'il en avait distribué. Je lui ai demandé de le faire ce matin, et je viens de rentrer il y a quelques minutes, et je n'ai pas eu l'occasion de lui demander, parce que je parlais avec frère Ben et les autres là, je n'ai pas eu l'occasion de lui en parler. Il m'a simplement dit qu'il avait distribué des cartes de prière. Cartes de prière B, 101 à 100, B. Eh bien, je crois, la carte de prière numéro 1, B. Qui a B? Pouvez-vous, si vous pouvez vous lever, levez la main, si vous pouvez marcher. Une femme en arrière. Très bien. B, numéro 1, numéro 2, 3, 4, 5, venez par ici. Et je vais demander à ces petits enfants s'ils peuvent venir derrière l'estrade et s'asseoir là maintenant. Très bien. Bon, je vais vous dire ceci. Envoyez-les. Passez par cette allée-là. Ceux de 1 à 5. Passez par là et avancez tout de suite. Que ceux qui se trouvent dans l'allée-là, s'ils le peuvent, approchent par ici en passant par leur siège. Maintenant, les petits-enfants qui sont assis ici, venez derrière l'estrade ici. Je veux qu'ils s'avancent par ici, les gens, pour que je puisse prier pour eux. Bon, voyons voir maintenant. Je vois. Qu'est-ce que j'ai appelé? 1 à 5, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5. 1. Que tous ceux qui ont une carte de prière, là, 1 à 5, lèvent la main. Regardez s'ils sont tous debout. Il y en a 1, 2, 3, 4, il en manque un. 1, 2, 3, 4, 5, les B. Avez-vous le 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4, où se trouve le 5? B, 5, allez par là, madame. D'accord, monsieur, allez par là, c'est ça. Faites le tour et revenez. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. B, carte de prière, 6, 7, 8, 9, 10. Voyez, nous faisons cela. Ainsi, on n'a aucune interruption. Là, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, j'ai, je pense, avez-vous une carte, monsieur, debout ici? 7? Très bien. Allez là-bas. Allez avec eux. Je crois que je n'en ai que deux, là. D'accord. 6, 7, 8, 9, 10. La carte de prière, 6, 7, 8, 9, 10. Je n'en ai que deux. Voici. Vous en avez une, monsieur? Et voilà, ils sont là. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maintenant, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, là, d'accord? 20, 21, 22, 23, 24, 25. 1, 2, 3. Faites le tour par là, monsieur. Faites le tour. Placez-vous dans la ligne. 25, 25. Aidez-le là-bas. Laissez-le sortir par où il veut. Voici, frère, juste ici, ils ont ouvert un passage ici pour vous. Les gens vous ont ouvert un passage ici. Que quelqu'un l'aide juste là, si vous le pouvez. Laissez-le faire le tour et entrez dans la ligne. Je vous demande, assoyez-le juste là, et quand son numéro sera appelé, amenez-le ici. Voyez, quand viendra son numéro, amenez-le dans la ligne. Très bien, je pense que c'est à peu près tout ce que nous pourrions prendre maintenant. Bon, combien ici n'ont pas de carte de prière? Et vous êtes confiant, vous êtes absolument sûr que Dieu peut guérir les malades. Levez la main. Le croyez-vous? Combien d'entre vous ici viennent de, savent que je ne sais rien à votre sujet, que je ne connais aucune de vos maladies? Il y a des gens ici, là, mon tabernacle, l'un de vous qui êtes des nouveaux venus. C'est à peine si je reconnais quelqu'un. À part ces ministres. Là en bas, je vois une personne que je reconnais. Je ne suis pas ici assez souvent, voyez. Il y a des gens qui viennent de partout. Combien de personnes ici? Permettez-moi de vous le prouver. Combien ici savent que je ne sais rien à votre sujet? Levez la main. Regardez. Voyez, c'est votre main devant Dieu. Voyez-vous, je ne sais rien à leur sujet. Maintenant, je ne sais pas. Il y aura peut-être quelqu'un qui sera appelé dans la ligne de prière ici, que je connaîtrai. Mais je ne saurais pas la raison pour laquelle il est venu. Voyez, je ne saurais pas la raison pour laquelle il est venu. Maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est de vous amener à voir ceci. Maintenant, observez. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Croyez-vous cela? Croyez-vous qu'il va approuver cette parole? Très bien. A-t-il dit qu'il se révélerait comme fils de l'homme à la fin de l'âge de l'Église? Combien? Et que le monde aurait l'air, serait dans la condition de Sodome et Gomorre? Croyez-vous cela? Maintenant, Billy, pourquoi ne pas les faire passer par ici? Oui, très bien. Bon, d'accord, très bien. À la fin de l'âge, il se révélerait. Maintenant, observez. Vous rendez-vous compte que, là, voici une impossibilité absolue? Car voici des gens qui se trouvent dans cette ligne que je n'ai jamais vus de ma vie. Il y a des gens assis là que je n'ai jamais vus. Mais souvenez-vous, dans Hébreux 4:15, je crois que c'est là, il est dit, il est maintenant le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Est-ce vrai? Maintenant, s'il est le souverain sacrificateur, alors il est Hébreux 13:8, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pas vrai? Maintenant, comment se révélerait-il? Comme je vous l'ai dit, il parle toujours par ses prophètes. Il envoie toujours un message avant le jugement, en toute chose. Il ne change jamais sa façon de faire. Dans le jardin d'Éden, il a décidé comment il allait sauver l'homme, par le sang versé d'un innocent. Il n'a jamais changé ça. Nous essayons de changer ça par l'instruction, par des tours de Babel, par de grandes villes et des choses de ce genre. Nous essayons de changer ça, mais ça ne marche pas. Nous essayons de changer ça en amenant le monde auprès de lui par l'instruction. Nous essayons de changer ça par la dénomination des gens. Ça n'a jamais marché. Il n'y a qu'un seul endroit où les hommes peuvent se rencontrer pour l'adoration. C'est sous le sang. Vos dénominations vous diviseront, mais sous le sang, vous êtes tous les mêmes. Il ne change jamais. Maintenant, s'il est le souverain sacrificateur immuable, est le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors il doit tenir cette parole. Non pas parce que nous avons dit qu'il l'a fait, mais parce qu'il a dit qu'il le ferait. Voyez ? Maintenant, là, s'il veut le faire, eh bien, arrêtez un instant, réfléchissez. Maintenant, combien d'entre vous, dans cette ligne de prière, savent que je ne sais rien à votre sujet, au sujet de votre maladie ? Alors, levez la main. Vous savez que je... Combien, dans cette ligne de prière, savent que je ne vous connais même pas ? Levez la main. Regardez dans l'auditoire. Voyez ? Maintenant, vous, là-bas, vous n'êtes pas obligé d'être juste ici. Vous n'avez qu'à toucher son vêtement. Vous n'avez qu'à parler et dire, « Seigneur Jésus, je te crois. » Maintenant, vous dites, « Je crois cela. » Et je crois que tu peux révéler à Frère Branham, parce que, bon, pas parce que c'est Frère Branham, il n'est qu'un homme ordinaire. Et probablement que si l'enlèvement arrivait ce matin, vous pensez à l'enlèvement? Si l'enlèvement arrivait ce matin, je dis cela en toute humilité, il n'y a aucun doute que la moitié de cette assemblée, si nous allions d'après le rang, là où nous devrions être, la moitié d'entre vous partirait avant moi. C'est vrai? Je ne suis pas... Regardez la responsabilité que j'ai et combien je la néglige. Je suis un serviteur inutile pour Christ, de savoir ce que je sais de lui et ensuite vivre comme je le fais. Non pas que je suis immoral, impur, ni rien de tel. Dieu sait que c'est vrai. Voyez, j'essaie de vivre correctement, mais j'ai simplement l'impression que je n'arrive pas à transmettre la chose. Peut-être que si ça avait été quelqu'un d'autre, peut-être très instruit ou quelque chose comme ça, ils auraient pu le transmettre aux gens. Mais là, en y pensant, ce n'est pas tout le monde qui va le saisir, de toute façon. Voyez, il sait ce qu'il va faire. Alors je me remets simplement à lui et je dis, « Seigneur, je suis entre tes mains, agis avec moi comme bon te semblera. » Maintenant, si Jésus-Christ est le même hier et éternellement, maintenant, je crois connaître cette femme. Je ne me rappelle pas qui elle est, mais je la connais. Je la connais d'une manière ou d'une autre, car j'ai vu son visage, mais je ne sais pas qui elle est en ce moment. Mais je la connais d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous me connaissez? Oui, je me suis dit, en regardant son visage, je me suis dit que je la connaissais, mais je ne saurais dire qui elle est. Mais je crois qu'elle, n'est-ce pas votre mari? N'êtes-vous pas la femme qui travaille au... Son mari travaille chez 777, ou chez 7-Eleven, ou quelque chose comme ça, à New Albany, Madame Hagan, c'est ça. Maintenant, vous êtes venu ici, venu à l'église. Roy, n'est-ce pas chez elle que nous sommes allés un jour? Est-ce celle qui demeure sur la montagne? Que dis-tu? Sa sœur. C'est pour ça, voyez? Je me souviens que Roy et moi roulions en voiture, et il a mentionné ce nom, et le Seigneur m'envoyait là-bas et a guéri cette femme sur le champ. Oui, monsieur, et je viens de m'en souvenir. Maintenant, mais de savoir ce qui ne va pas chez vous, je n'en ai aucune idée, vous le savez. Mais si le Seigneur Jésus peut lui dire quelque chose qu'elle a fait, ou si elle a peut-être des problèmes financiers, peut-être qu'elle et son mari ont des problèmes, peut-être elle et ses enfants, peut-être un de ses enfants, si elle a des enfants, je ne sais pas. Mais si elle en a, peut-être que certains de ses enfants traînent partout. Peut-être qu'elle est là pour savoir quelque chose à ce sujet. Je ne sais pas. Je n'ai aucun moyen de le savoir. Je ne peux pas vous dire, mais lui, il le sait. Voyez, donc, vous voyez, n'est-ce pas? Écoutez, maintenant, saisissez bien ceci. Je n'ai jamais dit cela en public auparavant, mais je me sens conduit à le dire maintenant. Qu'est-ce qu'une parole? C'est une pensée exprimée. Maintenant, comment pourrais-je exprimer ce qu'elle pense, ou comment pourrais-je lui exprimer sa pensée? Il faudrait que ce soit certaines des pensées qui ont été exprimées, et ça, elle ne peut pas le faire. Je dois donc exprimer sa pensée à lui. Et si c'est vrai, Si c'est la pensée de Dieu, ce sera vrai. Si ce n'est pas la pensée de Dieu, alors ce ne sera pas vrai. Elle le saura, vous le saurez, tout le monde le saura. Voyez, c'est inévitable. Soit c'est Dieu, soit ce n'est pas Dieu. Sa grâce est suffisante. Maintenant, croyez, là, tout le monde. Combien croiront? Eh bien, peut-être que vous n'avez jamais assisté à l'une des réunions auparavant. Mais croirez-vous si Dieu fait ça? Et puis vous, là-bas, vous qui ne serez pas dans la ligne de prière, priez, vous aussi, voyez? Ou si vous avancez dans la prière, peu m'importe qui vous êtes, priez simplement. Seigneur Jésus, maintenant j'ai pris beaucoup de temps, mais c'est ton service, Seigneur. Et j'ai fait tout ce que je peux faire humainement. Mais tu es Dieu. Maintenant, le reste est entre tes mains, Père. Que l'on sache que tu es Dieu et que ta parole est vraie. Prouve ta parole, Seigneur, en ce dernier jour où le Fils de l'homme sera révélé. Comment s'est-il fait connaître? Il était la parole. Qu'est-ce que la parole? Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Il a vu leurs pensées. A dit à Pierre, Philippe, Nathanaël, la femme au puits, tous les autres là, que lorsqu'ils viendraient, ils savaient que la petite fille était endormie, pas morte. Je te prie, Dieu, d'utiliser nos humbles tabernacles aujourd'hui, cette demeure terrestre, pour que tu puisses te faire connaître. Par le nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, pour guérir, je ne peux pas. Vous le savez. Qu'est-ce qu'un don, frère Branham? Quelque chose que vous utilisez? Non, c'est savoir s'enlever du chemin, voyez? Aussi longtemps que vous êtes là, ça ne marchera jamais. William Branham est le plus grand ennemi que j'ai, voyez? Mais quand je l'enlève du chemin, voyez? Alors Jésus-Christ peut utiliser le corps. Voyez, voyez, maintenant, j'approche cette femme. Alors quoi? Bon, disons, si elle est malade. Voici une dame dont la jambe est allongée sur une chaise. Bon, si Jésus était ici et descendait poser ses mains sur cette femme, cette jambe serait guérie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais voyez-vous, nous sommes des êtres humains avec des mains impures. Ses mains sont saintes. Dieu l'a confirmé. Il était la parole. Vous croyez cela? Bien sûr. Il ne doutait point. Il poserait ses mains sur elle et dirait, « Ma fille, sois guérie. » Et elle serait guérie. Mais ensuite, il nous a donné la commission de faire la même chose. Je pense qu'il l'a démontré clairement. Maintenant, s'il me donnait une vision et disait à cette femme de faire quelque chose, là, eh bien, je crois que si je lui imposais les mains, elle serait guérie. Le croyez-vous? Mais s'il ne donnait pas de vision, que ferait la vision? Seulement me donner la foi. Transmettre ma foi, la puissance invisible de Dieu. Voyez, maintenant si vous, chacun de vous mourrait à l'instant même, vous ne verriez jamais votre vous quitter votre corps. Toutes vos facultés mentales, tout ce que vous êtes partirait, mais vous ne verriez pas cela partir. Voyez, ce serait la force qui fait que je bouge mes mains. C'est une force, n'est-ce pas? La force qui peut me faire penser, la force qui me fait prêcher, la force qui me fait vivre, agir, cette même force qui peut mettre ce corps en action, le quitterait et vous ne verriez pas la force partir. C'est une force invisible, la foi aussi. Ne manquez pas ceci, la foi. Et Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades. Maintenant, voyez, si je m'avançais et que j'avais eu une vision et que je lui imposais les mains, je crois qu'elle se rétablirait parce que j'aurais vu la vision. Ma confiance est dans la vision. Mais qu'en est-il de la parole? Lui imposer les mains avec la même foi. La vision n'est donnée que pour motiver ma foi et votre foi. La même foi sans vision agira de la même façon. Certaines personnes ont reçu une grande foi. Certains n'ont pas ce genre de foi. Il aurait donné des visions pour leur donner cette foi. Voyez? Maintenant, voyez, ce seraient toujours les mêmes mains impures, la même personne, mais elle lui imposerait les mains. Maintenant que le Saint-Esprit confirme sa présence, confirme sa parole qu'il a promise. Bon, j'ai oublié votre nom. Quel est votre nom maintenant? Hagan. Bien, il aurait pu me le dire s'il l'avait voulu, voyez. Mais je dis juste que je sais que je vous connais. Maintenant, avancez-vous ici un instant, un peu plus près. Il y a des gens debout, là, qui prient, voyez-vous. C'est maintenant, Madame Hagan, si je suis le serviteur de Christ et que j'ai prêché la parole que je crois être la vérité, est-ce que vous le croyez? Vous le croyez. Maintenant, si vous avez besoin de quelque chose, je ne pourrai pas vous le donner parce que je n'ai pas cela. Je ne peux pas le donner, à moins que ce soit un peu d'argent ou quelque chose, ou je pourrais aller parler à votre mari, à vos enfants, à vos proches, ou quelque chose. Ça, je le pourrais. Mais si vous avez besoin de guérison, je ne pourrais pas vous la donner. Elle a déjà été acquise. Mais par un don, je peux vous faire reconnaître, si vous avez la foi, qu'elle a déjà été acquise. Parce que celui qui l'a acquise, le seul en qui vous pouvez avoir la foi, c'est le Fils de Dieu. Celui qui a payé le prix se tient ici. Voyez, pas vrai? Celui qui a payé le prix est ici. Maintenant, vous me connaissez en tant que frère, ministre, et je vous connais en tant que sœur. Nous le connaissons comme étant Dieu. Maintenant, si cette personne invisible, par un don que j'ai de m'enlever du chemin, peut me dire, vous parlez à travers moi, mes lèvres, voyez? Maintenant, quand je prie, Dieu ne me voit pas. Il entend seulement ma voix à travers le sang de Jésus. Voyez, il ne me voit pas, il entend ma voix. Et ce sang-là représente ce que je demande. Voyez, alors il entend ma voix, mais il ne voit que le sang. Voyez, il ne me voit pas. Ainsi, je ne peux pas être impur quand je suis sous le sang. Le sang purifie. Voyez, il est le pare-choc entre moi et Dieu. Et il a promis, demandez quoi que ce soit au Père, je le ferai. Croyez-vous que c'est vrai? Maintenant, si tout le monde, il semble, pouvez-vous voir ce qui est en train d'arriver? Regardez ce qui vient ici, une lumière, ombre, qui se déplace tout autour. Maintenant, elle ne pourrait pas le cacher, même si elle le devait. Non, non, vous êtes ici à cause de quelque chose qui vous est arrivé. Vous avez eu une pneumonie et vous avez été hospitalisé. Vous avez été sous une tente d'oxygène et vous souffrez des suites de cela. Vous allez vous rétablir. Jésus-Christ va vous rétablir. Je le vois. Continuez à y croire. Continuez à y croire, sœur Hagan. Je vais vous imposer les mains au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, sœur. Allez, soyez heureuse maintenant. Ne doutez pas de ce qu'il a dit. Bonjour, sœur. Je ne pense pas vous connaître. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Maintenant, voici une femme que je ne connais pas. Je ne vous connais pas. Je n'ai aucun moyen de vous connaître. Mais croyez-vous que Dieu peut me révéler par sa parole, parce que, voyez, parce qu'il l'a promis? Croyez-vous qu'il peut me dire quelque chose à votre sujet? Et cela vous ferait l'accepter, n'est-ce pas? Sachant que ce ne serait pas moi, votre frère, mais que ce serait lui, votre sauveur. Croyez-vous cela? Vous êtes sur le point de subir une opération. On vous a dit que vous deviez subir une opération. Croyez-vous qu'il peut me dire pourquoi vous avez besoin d'être opéré? C'est dans l'estomac et dans les intestins. C'est tout à fait juste. Vous voulez l'éviter. Croyez-vous maintenant, avec cet esprit qui est ici, l'esprit de Christ, tout autour de nous et sur moi, vous savez que quelque chose devait vous le dire, parce que je ne vous connais pas. Croyez-vous que par l'imposition des mains, cela transmettrait la foi que j'ai avec vous, avec votre foi, et devant Dieu notre Père, vous seriez guéri? Alors, Seigneur Jésus, j'obéis à tes commandements. Quand tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Permets que notre sœur soit rétablie pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, continuez, ne n'y pensez plus, voyez, continuez à le croire de tout votre cœur. Bonjour, je dis simplement cela pour contacter votre esprit, madame, tout comme Jésus l'a fait au puits et a dit, donne-moi à boire. Maintenant, je crois, je ne crois pas vous avoir déjà vu, je crois que vous m'êtes inconnu. Est-ce juste? Si c'est juste, levez la main pour que l'auditoire puisse le voir. Je ne connais pas cette dame. Il s'agit de guérison authentique, de foi authentique, de l'écriture authentique. La pure parole de Dieu manifestée qui prouve qu'il n'est pas mort. Il est vivant à jamais. Et celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et ce croyant imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Oh, comment pouvez-vous en douter? Voyez, maintenant, il savait qui douterait et qui ne douterait pas. Moi, je ne le sais pas. C'est à lui d'en décider. Mais maintenant, si cette dame m'est inconnue, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. C'est une jeune femme, beaucoup plus jeune que moi. Mais je ne l'ai jamais vue. Elle est ici pour une raison quelconque. Croyez-vous que ces choses que j'enseignais dans la Bible, madame, sont la vérité? Vous croyez qu'elles sont la vérité et vous l'acceptez, non pas parce que je l'ai dit, mais parce que Dieu l'a dit. Croyez-vous que nous vivons dans les derniers jours où le Fils de l'homme devait être manifesté? Ce serait toute la parole qui était rassemblée en Luther, en Wesley, les baptistes et tout cela, et les pentecôtistes, rassemblés pour en arriver à la révélation de tout ce qu'il en a été. Le septième ange devait ouvrir le mystère des six sceaux. Tout cela doit être rassemblé dans le Fils de l'homme. Sa plénitude du temps est arrivée à la plénitude de sa parole pour manifester la plénitude de son corps. C'est la parole. Alors, c'est la parole parlée, manifestée par la parole, révélant la parole. Maintenant, si Dieu peut me dire quels sont vos problèmes, ce qu'il est plutôt, il vous a créé, il sait tout à votre sujet. Et s'il peut le révéler, vous semblez être une personne en bonne santé. Mais s'il peut me le révéler, vous saurez si c'est la vérité ou pas. Allez-vous l'accepter? Maintenant, regardez-moi bien. Bien sûr, vous portez des lunettes. Vous deviez les porter. Ce n'est vraiment pas pour ça que vous êtes ici. Je peux voir cela reculer. Voyez? Maintenant, vous êtes ici à cause d'un caillot de sang. Voyez? Croyez-vous qu'il peut me dire où il se trouve? Vos jambes. Croyez-vous que c'est Dieu qui fait ça? Croyez-vous que Dieu peut m'en dire davantage à votre sujet? Hein? C'est très bien que vous me soyez inconnu et je vous parler un instant. Croyez-vous qu'il peut me dire d'où vous venez? Vous venez de Gary, dans l'Indiana. Croyez-vous qu'il peut me dire qui vous êtes? Madame Ogden, c'est juste. Maintenant, rentrez chez vous et soyez rétablis au nom de Jésus-Christ. Voyez? Bonjour. Nous sommes aussi inconnus l'un à l'autre. Je ne vous connais pas. Voyez? Mais vous croyez que le Seigneur Jésus peut me révéler votre problème? Vous le savez. Merci, sœur. C'est très bien. D'accord. Étant donné que vous le savez, cette hernie va guérir. Et vous avez une tumeur au côté. C'est exact, n'est-ce pas? Vous voulez que je vous dise de quel côté elle se trouve? C'est du côté droit. C'est exactement ça. Maintenant, continuez votre chemin et croyez-le, et vous serez guéri. Vous croyez? Absolument, c'est la vérité. Croyez-vous que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, est venu tout au long des âges comme il l'avait promis? Mais là, croyez-vous que le monde est dans un état comme celui de Sodome, prêt à être détruit par le feu, comme Sodome l'a été? Les Sodomites étaient des gens des nations, souvenez-vous. Mais là-bas, à Sodome, il y avait quelques justes. Dieu a envoyé un messager pour les appeler à sortir. Certains d'entre eux sont sortis, d'autres non. La plupart sont restés là. Mais il y avait un groupe qui habitait sur la montagne, Abraham. Et un messager est venu vers lui pour lui montrer ce qui allait arriver. Il n'allait pas en faire partie de toute façon. Mais là, le monde est dans la même condition aujourd'hui. Et Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David. Et il est venu se manifester. Je viens de remarquer quelque chose qui est arrivé à la femme. Elle est ici pour quelque chose de très important. Elle n'est pas ici à cause de la maladie. Vous savez ce qu'elle veut me demander? Que je lui impose les mains afin qu'elle reçoive le baptême du Saint-Esprit. Voyez, n'est-ce pas? Levez la main si c'est exact. Voyez, elle a une chose très importante. Cher Père Céleste, donne à ton enfant le désir de son cœur, qu'elle reçoive le baptême du Saint-Esprit. Ainsi, elle le recevra. Amen. Vous le recevrez, sœur. Que Dieu vous bénisse. Donnez-lui la louange et la gloire. Vous croyez? Qu'en est-il de vous là-bas? Croyez-vous aussi? Tout est possible à celui qui croit. Vous semblez très sincère à ce sujet. Croyez-vous que le caillot de sang peut partir, vous aussi, assis juste là, avec la chemise verte? Levez la main si vous croyez que ça va partir. ça partira. Je n'ai jamais vu l'homme de ma vie. Il m'est totalement inconnu. Je ne l'ai jamais vu. Croyez-vous, vous tous, dans l'auditoire? Maintenant, ne voyez-vous pas que ça ne peut être que lui? Le cancer n'est pas une chose impossible à guérir pour Dieu. Il peut le guérir, n'est-ce pas? Croyez-vous qu'il va le faire? Très bien. Alors allez, recevez-le au nom de Jésus-Christ. Croyez simplement de tout votre cœur. Bonjour, ma chérie. Tu sais, Jésus a versé son sang pour que ton sang soit guéri. Crois-tu cela? Dieu bien-aimé, je bénis cet enfant. Et puisse-t-elle recevoir une transfusion de sang du calvaire. Enlève tout le sucre, Seigneur, et qu'elle soit rétablie. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Bonjour. Croyez-vous qu'il peut guérir ce dos et le rétablir? Très bien. Allez, croyez-le. Ayez la foi. Posons les mains sur vous, comme vous le demandez. Que Dieu vous bénisse, frère. Croyez-vous? Il a fait la nourriture pour la manger. Il a fait un estomac pour la digérer. Et quand quelque chose ne va pas dans cet estomac, il en est le guérisseur. Croyez-vous cela? Très bien. C'est tout ce que vous devez savoir. Croyez de tout votre cœur. Étant donné que vous aviez la même chose, continuez et croyez de tout votre cœur, vous aussi. C'est bon. Faites avancer cette femme. Bonjour. Une jolie petite fille. Elle est terriblement petite pour avoir des problèmes gynécologiques. Crois-tu que Jésus va te guérir de ça? Dieu bien-aimé, cette petite fille, je maudis cet ennemi comme nous sommes dans la présence de Jésus-Christ. Que cette chose la quitte, qu'elle soit guérie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, chérie. Tu vas te rétablir. Croyez-vous? Maintenant, une ombre noire s'avance là. La mort. Un cancer n'est pas... Dieu peut guérir le cancer et rétablir. Croyez-vous cela de tout votre cœur? Croyez-vous qu'il va vous en guérir? Au nom de Jésus-Christ, je maudis cette chose maudite sous ces poissons croisés. Puisse la croix de Christ l'enlever. Fais-le disparaître au nom de Jésus. Ne doutez pas. Allez, croyez de tout votre cœur. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Bonjour. Bien entendu, votre arthrite va disparaître et vous allez vous rétablir si vous y croyez. Vous croyez que vous serez rétabli et qu'ainsi vous marcherez de nouveau et vous irez bien? Que le Seigneur bénisse cette chère sœur et la rétablisse au nom de Jésus-Christ. Allez, croyez de tout votre cœur. Croyez-vous que la même chose peut vous arriver? Eh bien, je crois que c'est arrivé. Vous allez, si vous croyez que vous êtes guéri à l'instant même, moi aussi, je crois que cela vous a quitté. Au nom de Jésus-Christ, que notre frère soit normal et rétabli en s'en allant, pour la gloire de Dieu. Amen. C'est enfin arrivé. Vous qui êtes assis là, en train de pleurer, croyez-vous que ces hémorroïdes vous quitteront? Il est resté juste ici pendant la dernière demi-heure, on dirait. Ici, devant moi, il est là, juste à côté de cet homme. Vous croyez toujours, n'est-ce pas? Vous croyez de tout votre cœur et vous pouvez retourner au Texas rétabli. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Crois-tu que ce petit dos se rétablira et que tu seras prêt à être guéri? Seigneur Jésus, touche ce petit être et guéris-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Crois-le de tout ton cœur. Maintenant, cet esprit s'approche. Il est partout dans le bâtiment. C'est difficile de dire d'où cela vient. La nervosité. Permettez-moi de vous montrer quelque chose. Combien sont nerveux ici levez la main. Voyez, c'est difficile de dire lequel c'est, mais Dieu connaît tout à ce sujet. Tous vos désirs, vous avez tout essayé. C'est difficile de les surmonter. Vous essayez de renoncer à beaucoup de choses dans votre vie et vous voulez servir Dieu de toutes vos forces. Il semble qu'il y ait toujours eu quelque chose qui vous empêchait de le faire. Croyez-vous que ça va se produire à l'instant même, ce matin, que vous serez libéré de ces choses? Le croirez-vous, notre Père Céleste, afin que les autres voient que tu es le Christ, le Fils de Dieu, guéris cette chère femme qui se tient ici, Père, calme-la. Nous comprenons tous ses souffrances, Seigneur, et nous te prions de la rétablir. Comme je lui impose les mains avec toute la foi, moi aussi, j'ai une attaque en ce moment, fatigué, Satan, surmené, les nerfs mis à rude épreuve. Quitte-la, Satan. Je lui impose les mains avec toute la foi que j'ai. Quitte-la, au nom de Jésus. Allez, croyez en lui. C'est ce que vous vouliez que je fasse. Je ne vous connais pas, vous m'êtes inconnu. Cette hernie, si vous le croyez, va guérir. Et autre chose, vous souffrez d'arthrite. Si vous croyez, vous irez bien. Votre problème de dos vous a quitté. Allez, croyez. Croyez-vous de tout votre cœur? Ici, ça, combien? Est-ce que ce sont tous ceux qui étaient dans la ligne? Est-ce qu'il reste encore des gens dans la ligne? Passez tous par ici pour que je puisse imposer les mains aux malades. Courbons la tête un instant. Il est passé 13 heures. Dieu bien-aimé, j'impose les mains à ma sœur, alors que l'onction du Saint-Esprit est ici. Rétablis-la au nom de Jésus. Cher Père Céleste, j'impose les mains à mon frère. Croyez. Oh, on n'a pas prié pour vous, frère? Frère, vous savez ce qu'il a fait? C'est un vieux chasseur de
cerfs.
Il a dit qu'il avait une carabine avec laquelle il chassait toujours le cerf. Il a dit qu'il était trop vieux maintenant pour aller à la chasse. Il voulait apporter la carabine pour me la donner. Amen. Disons, gloire au Seigneur. N'oubliez pas votre petite question. Déposez-la ici. Si vous ne l'avez pas aujourd'hui, apportez-la mercredi ou dimanche. Étiez-vous tous dans la ligne de prière? La ligne de prière? Pensez donc combien il est doux pour nous. Pensez-y, il prouve sa parole. Voyez, maintenant, voyez, si je pouvais guérir, ce serait différent. Voyez, mais il est celui qui l'a déjà fait. Voyez, donc il prouve sa présence ici. Je suis celui qui était mort et qui est vivant au siècle des siècles. Il n'y a jamais eu un homme comme lui. Il était un homme unique, lui. Il était Dieu. Voyez, il n'y a jamais eu un homme ayant vécu comme il a vécu. Il n'y a jamais eu un homme né comme il est né. Il n'y a jamais eu un homme qui ait pu faire ce qu'il a fait. Il n'y a jamais eu un homme qui soit mort comme il est mort. Il n'y a jamais eu un homme qui soit ressuscité des morts comme il l'a fait. Oh, dites-vous, attendez une minute, frère Branham. D'autres ont été ressuscités des morts. Oui, mais ils sont morts à nouveau. Mais lui, il est vivant pour toujours. Voyez, jamais un homme n'a ressuscité comme lui. Il est ressuscité des morts pour toujours. Chantons-lui cela maintenant.
Just my salvation on now breathe.
Courbons la tête. Seigneur Jésus, j'aime ces gens. Et je les ai retenus, Seigneur. Ce n'était pas mon intention. Mais ici, beaucoup d'entre eux ont des petits-enfants qui attendent. Ils ont faim. Ils ne comprennent pas. Mais ils restent assis ici parce qu'ils savent que l'homme ne peut vivre que de la parole de Dieu. Et alors, quand la parole est prononcée, puis dévoilée, manifestée, prouvée, alors ils savent que ça ne peut être que toi. Je prie pour chacun. Bénis-les, Père, qu'ils soient en bonne santé et forts pour le voyage qui nous attend. Bénis-les tout au long de la semaine. Et si tu le veux, Seigneur, que nous puissions nous retrouver ici dimanche prochain, au prochain sabbat, pour venir ici et adorer. Je te prie, Dieu, de les fortifier. Certains ne pourront peut-être pas, d'autres devront rentrer chez eux dans différentes régions du pays, peut-être traverser la mer ou aller à l'extérieur des États-Unis. Nous prions que tu sois avec eux et que tu les aides. Puissions-nous nous retrouver au pied de Jésus un jour. Accorde-le, Père. Aide-nous maintenant. Nous nous aimons les uns les autres. Nous croyons en toi. Et nous espérons qu'un jour, le lien qui unit nos cœurs en ce moment sera le lien éternel. Permets que nous vivions dans cette ville carrée pour toute l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Très bien.
The name of Jesus with you, a child of... Now shake hands with one another.
Serrez-vous la main les uns aux autres. Tournez-vous et serrez la main de quelqu'un. Dites, je suis heureux d'être ici avec vous ce matin.
Everywhere you go, precious name. Oh, how sweet. God bless you.
Que Dieu te bénisse, Ben.
Oh, power and joy of heaven, precious name. Oh, how sweet. Oh, power and joy of heaven.
Bon, écoutez ceci maintenant. Chantez-le de cette façon.
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare.
Maintenant, écoutez bien.
When temptations around you gather,
what que faire?
Breathe that holy name in prayer. Precious name, oh how sweet, oh power and joy of heaven, precious name.